Europe Midi.
Europe Midi.
Midi 14h.
Wendy Bouchard.
En direct, en public, merci de votre présence. On partage l'actualité pour mieux la comprendre avec vos réactions, vos questions dans le studio d'Europe 1. L'émission est chaque jour en public et je vous encourage à venir y participer. N'hésitez pas, le micro circule, le standard est ouvert, Twitter également, hashtag E1 Midi où j'attends vos réactions. Dans 10 minutes, expliquez-vous, première séquence de cette Europe Midi. Chaque jour, une personnalité vient défendre sa position en studio. Et aujourd'hui, c'est Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, membre du Parti Socialiste, qui vient nous dire pourquoi l'idée du gouvernement de contrôler les chômeurs va les stigmatiser. On revient sur cette proposition de François Rebsamen. Lui s'y oppose et vous l'interpellerez. Et puis à 13h30, vous participez au débat d'Europe Midi. On va revenir sur la refonte de la loi Duflot. Fallait-il revenir justement sur l'encadrement des loyers? Nous mettrons face à face Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, et Jean-François Buette de la FNAIM. On est ensemble pendant 2 heures. Il est midi sur Europe 1. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Vous êtes là pour le journal. Et c'est Christophe Carré qui nous rejoint pour cette édition. Bonjour Christophe.
Bonjour Wendy.
Il faut renforcer le contrôle des chômeurs. Je vous le disais à l'instant, ce n'est pas un élu de la droite qui le dit. C'est bien le ministre du Travail actuel, François Rebsamen. Il veut des sanctions s'il y a fraude.
Le retour en classe pour 12 millions d'élèves. Nous serons dans un instant à leur toute première pause. Recueillir leurs impressions, ce sera dans une école parisienne du 15e arrondissement. La mauvaise météo booste notre pouvoir d'achat. Il a fait doux cet hiver et pas très chaud cet été. On a consommé moins d'électricité et de gaz, respectivement, moins 8 et moins 13%. Le foot, la Ligue 1 perd quelques-uns de ses plus beaux joyaux. Des stars du championnat ont profité du mercato cet été pour boucler leurs valises.
Midi 14h, Europe Midi.
Et à la une de ce journal, d'abord la sortie choc ce matin de François Rebsamen, ministre du Travail, sur le chômage et sur les fraudeurs de ce système, Christophe.
Ah oui, il prend une position habituellement soutenue par la droite et qui ne risque pas d'améliorer les relations entre le gouvernement et les fraudeurs du PS. Il veut renforcer le contrôle des chômeurs et qu'il y ait sanctions s'il y a fraude. C'était tout à l'heure sur iTélé.
Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut renforcer les contrôles. Quand on est chômeur, on recherche un emploi. Et donc, c'est négatif pour ceux qui recherchent des emplois d'être à côté de personnes qui ne cherchent pas d'emploi. Donc, il faut qu'il y ait à un moment une sanction. 350 000 offres d'emploi ne trouvent pas de preneurs aujourd'hui dans un pays qui compte 3 400 000 chômeurs. C'est quand même quelque chose d'insupportable. Donc, je souhaite qu'on vérifie, au sens du Bureau international du travail, que les chômeurs cherchent du travail.
Voilà ce que dit François Rebsamen. Olivier Samin du service économie d'Europe 1, des vérifications et des sanctions, ça existe déjà.
Ben oui, vous savez que la condition pour être indemnisé par Pôle emploi, c'est d'être disponible et dans une recherche active d'emploi, c'est-à-dire répondre aux convocations de votre conseiller de Pôle emploi, accepter de suivre des formations et ne pas refuser plus de 2 offres raisonnables d'emploi, autrement dit des offres qui correspondent à votre profil et qui sont dans votre région. Alors comment Pôle emploi contrôle tout ça? Eh bien, le conseiller vous convoque pour vérifier que vous faites bien tout ce qui est prévu et pour vous aider à vous recadrer si vous avez un relâchement. La convocation, c'est 1 à 2 fois par mois si vous êtes en suivi renforcé, autrement dit si vous êtes très éloigné de l'emploi. Sinon, c'est 1 fois au 4e mois et 2e fois au 9e mois. Et si Pôle emploi constate que vous ne faites rien, eh bien vous risquez une radiation, ce qui veut dire que pendant une période donnée, vous ne toucherez plus d'allocation chômage. Elles seront suspendues et seront à nouveau versées quand la radiation prendra fin. En juillet dernier, on a par exemple recensé 49 800 radiations administratives, mais ce chiffre est quand même à prendre avec des pincettes.
Alors Olivier, si le ministre dit qu'il veut renforcer les contrôles à la fraude, ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas suffisants aujourd'hui?
Alors l'idée du ministre, ce n'est pas nécessairement de renforcer la fréquence des contrôles, mais plutôt d'en renforcer l'efficacité et d'avoir un suivi plus qualitative des chômeurs. Et François Rebsamen ne part pas de rien. Depuis un an, il y a une expérimentation qui est en cours dans 4 régions en France pour tester de nouvelles pistes qualitatives de convocation et de contrôle des chômeurs. Le ministre du Travail plaide pour que ces pistes soient généralisées à l'ensemble de la France.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Alors dans 5 minutes, pourquoi ces contrôles vont au contraire stigmatiser les chômeurs? C'est une mauvaise idée, pense Gérard Filoche. Il est pourtant membre du Parti Socialiste, ancien inspecteur du travail, mais il s'oppose à cette proposition et à ce souhait du ministre du Travail aujourd'hui.
François Hollande annonce un grand plan numérique pour l'école. L'État mettra tous les moyens pour former les enseignants et pour assurer partout l'arrivée du très haut débit, dit le chef de l'État qui n'a pas précisé pour l'instant quel budget y serait alloué. Le président président qui a assisté à la rentrée des classes ce matin dans un collège de Clichy-sous-Bois en région parisienne. 12 millions d'élèves retrouvent donc aujourd'hui le chemin de l'école. Les tout premiers viennent juste de terminer leur matinée, par exemple dans cette maternelle et primaire du 15e arrondissement à Paris.
Mais on a chanté aussi, on avait vu le renard avec un loup, avec un lapin. Mais c'était juste une image. J'adore l'école.
Ça me va parce que moi j'ai l'habitude de rentrer parce que j'habitais en Angleterre avant, donc forcément ça fait un peu de changement, mais ça fait pas énormément de changement.
Ça s'est bien passé parce que on a des nouvelles maîtresses, on retrouve des amis et on découvre de nouvelles choses en classe.
Je te dis pas.
Pourquoi ?
Parce que... Arrête !
Voilà, c'est sympa cette rentrée. La grande nouveauté...
Une journaliste agressée par un enfant.
Voilà, Virginie Salmen pour la citer. La grande nouveauté cette année, c'est évidemment l'application partout des rythmes scolaires. Il y a encore une vingtaine de maires récalcitrants qui ne veulent pas appliquer la réforme. L'État fera appliquer la loi, a prévenu tout à l'heure la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. On peut être de gauche et de bon sens. C'est la petite phrase ce matin d'Emmanuel Macron dans une interview au journal Ouest France. Le ministre de l'Économie fait sa première visite sur le terrain aujourd'hui dans une SCOP de la Manche. Une SCOP, c'est une entreprise gérée par ses propres salariés. C'est un modèle très apprécié par la gauche. On peut donc y voir une sorte de séance de rattrapage pour Emmanuel Macron après la polémique qu'il avait déclenchée la semaine dernière sur les 35 heures. Vous l'avez constaté forcément pendant vos vacances, l'été a été un peu pourri. On avait connu aussi un hiver assez capricieux avec des températures plutôt douces. Ce chamboulement météo, pas vraiment normal, mais qui a malgré tout des aspects positifs, en tout cas pour notre porte-monnaie. Mélanie Nounès, depuis janvier, on a dépensé beaucoup moins d'argent pour se fournir en gaz et en électricité.
Et oui, et résultat, les factures que vous allez recevoir dans les prochains mois vont être beaucoup moins salées que l'année dernière. Une baisse en moyenne de 20 euros par mois. Alors cette économie, vous le disiez, s'explique surtout par la douceur du temps. 2 degrés de plus l'hiver dernier, mais également 2 degrés de moins cet été. Et donc on a beaucoup moins poussé le thermostat, comme l'a constaté Mathieu Courtecuisse du cabinet SIA Partner.
L'hiver, il a fait environ 2 degrés de moins en moyenne sur l'ensemble de la France. Donc ça a un impact très net. 2 degrés, c'est en fait beaucoup. Et donc ça a un impact très net sur sur la consommation des ménages. On est entre 15 et 20% de baisse depuis le début de l'année par ménage. On a vu, par exemple, par rapport aux plus hautes consommations, on a eu des jours où on était à moins 20 ou moins 25% de consommation. Donc c'est absolument considérable.
Alors en moyenne, ça donne 8% de baisse de consommation pour l'électricité et 13% pour le gaz naturel. Eh bien, cette économie, Juliette, qui vit en couple dans un studio parisien, elle l'a constaté sur son relevé d'identité, elle ne chauffe qu'un mois dans l'année.
Comme on habite en ville et puis le chauffage coûte super cher en fait, on s'est rendu compte de ça tout simplement sur les factures EDF. Grosso modo, on va chauffer 3-4 heures qu'on éteint la nuit. Je me souviens d'une année surtout où il a fait, je crois, très très froid l'hiver, où on a chauffé à fond. On a vu les factures, on a vu ces oups.
Et alors c'est une bonne nouvelle, vous allez me dire, mais surtout pour les particuliers, puisque pour le gouvernement, eh bien, c'est un manque à gagner, car il perçoit la TVA sur le prix du chauffage, un manque à gagner de 350 millions d'euros.
Mélanie Nounès, le foot à minuit, le mercato de l'été, le marché des transferts, c'est officiellement clos. Il y a un constat assez tristoun à midi, Simon Rubin. La Ligue 1 voit partir plusieurs de ses joyaux.
Et oui, pour s'en rendre compte, on va comparer l'activité des deux gros clubs français, Paris et Monaco, par rapport à l'an dernier. La saison passée, Paris a dépensé près de 110 millions d'euros, c'est deux fois moins cette saison. Quant à Monaco, qui lâchait 130 millions l'été dernier, le club n'a dépensé que 8 millions cette année. Voilà qui donne le ton. De fait, la Ligue 1 a vendu ses meilleurs joueurs offensifs. Monaco perd Rodriguez, parti à Madrid, et cède en dernière minute Falcao à Manchester United. Marseille a vendu Mathieu Valbuena à Moscou. Lyon dit au revoir à Gomis et Briand. Lille lâche Salomon Kalou. Alors plusieurs explications à cela. À Paris, le fair play financier oblige le club à équilibrer ses comptes. Du côté de Monaco, l'oligarque russe qui finance l'équipe semble nettement moins investie que l'an passé. Et puis des clubs comme Lyon et Bordeaux ont de nouveaux stades à payer, impossible donc de trop dépenser. Au final, au milieu de ce tableau, trône le PSG, seul à avoir tout de même conservé ses meilleurs joueurs. Paris déjà roi, dont l'éclat ne saurait dissimuler le dénuement de ses rivaux.
Simon Rubin, merci.
Merci beaucoup Christophe, à tout à l'heure 12h30 pour la suite de toute l'actualité dans cette Europe Midi. Valérie Darmon a mis sa jolie robe bleue. Bonjour Valérie.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Bah oui, on ne peut pas rêver plus beau, plus ensoleillé, plus chaud pour cette journée de mardi.
Couleur estivale, le soleil qui brille depuis ce matin, l'atmosphère qui se réchauffe de plus en plus avec des températures élevées au sud. 33 au meilleur moment de la journée, cet après-midi à Montpellier, 31 à Perpignan, 30 à Nîmes, 29 à Mont-de-Marsan, 28 à Brive-la-Gaillarde, à Toulouse, à Bordeaux, 27 en Charente, à Angoulême, 25 à Rennes, à Tours, 24 en région parisienne, à Lyon, à Grenoble, à Orléans, 22 à Nancy et à Strasbourg et 20 degrés à Cherbourg et à Boulogne-sur-Mer. Le vent qui souffle toujours fort en rafale dans le sud tout de même à 90 km/h et puis au nord de la Loire jusqu'à l'Alsace. On va vers l'amélioration, la grisaille est en train de se dissiper et les éclaircies sont de plus en plus durables et de plus en plus belles.
Ça c'est pour aujourd'hui, demain mercredi ça reste beau encore ?
Oui, toujours beaucoup de soleil, un ciel tout à fait bleu. Du nord de la Bretagne à la Normandie, toujours quelques grisailles le matin, du brouillard comme sur l'Alsace et l'est de la Lorraine, des brouillards un petit peu denses et puis des entrées maritimes, mais seulement demain matin. Après, tout cela se dissipe aussi et ce sera encore plus beau qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. On fait une petite pause et on se retrouve pour le premier rendez-vous d'Europe Midi. Expliquez-vous, face à vous et pour vous, l'ancien inspecteur du travail Gérard Filoche, socialiste, nous dit pourquoi contrôler les chômeurs à Pôle emploi en fait des boucs émissaires. C'est pourtant l'idée du gouvernement. Vous avez la parole au 39-21. À tout de suite.
Europe Midi.
Wendy Bouchard.
Expliquez-vous.
Expliquez-vous en direct, en public. Une personnalité vient défendre un point de vue, une opinion chaque jour au cœur de l'actualité pour vous convaincre. Aujourd'hui, face à vous, en studio, Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour Monsieur Filoche.
Bonjour.
Le ministre du Travail, vous l'avez entendu, veut des contrôles à Pôle emploi pour s'assurer que les chômeurs cherchent bien un travail. Et vous, il y a quelques minutes, sur votre compte Twitter, vous écrivez « Je viens parler de mon ami François Rebsamen, ancien LCR, qui traque les chômeurs plutôt que le chômage. » Vous vous opposez donc à cette idée, venue du gouvernement, venu de votre famille politique. Vous ne voulez pas, vous, stigmatiser les chômeurs en dépit des fraudes constatées. Vous avez 20 minutes pour vous justifier et pour vous expliquer. Gérard Filoche, en préambule, vous savez bien que certains chômeurs peuvent toucher davantage avec leurs indemnités plutôt qu'en retrouvant un emploi. Qu'est-ce qui vous choque alors dans cette proposition de l'actuel ministre du Travail ?
Il me semble qu'il faut d'abord lutter contre le chômage avant de poser la question des chômeurs, parce que ce n'est pas leur faute. On a 5,9 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, et Outre-mer inclus. Ça, c'est un record, un triste record historique. Là-dessus, évidemment qu'il y a des difficultés, que les gens bricolent. C'est des centaines d'euros, hein, c'est pas des milliers. Il faut s'en tirer avec 500, 600 ou 700 euros. On crève la dalle, on mange des pâtes tout le mois, la viande une fois par mois. Et il faut bricoler pour ça. Alors il y a des gens, parfois, ils sont en retard. Mais ceci dit, Pôle emploi est extrêmement sévère. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de raturés. Alors, il y a certainement de la fraude. Toute fraude doit être sanctionnée.
Il y a certainement de la fraude et il y a 350 000 offres au bas mot qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui.
C'est faux, madame. Il y en a 192 800 aujourd'hui à Pôle emploi sur le plan national. Et quand on dit
donc
qu'il y a des...
Donc le ministre n'a pas les bons chiffres aujourd'hui.
Il
n'a
jamais été prouvé. Jamais, madame. Ce débat existe de façon récurrente depuis 20 ans. Jamais été prouvé qu'il y avait 200 000 ou 300 000 emplois non utilisés. Il y en a parce qu'il y a toujours des questions d'ajustement entre la main-d'œuvre et l'offre.
Ça veut dire quoi ? François de Rebsamen a besoin d'un pis-aller pour.
Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. C'est à lui qu'il faut lui demander.
Bah,
à moi, vous me demandez. Je ne peux pas interpréter. Moi, je réponds à ce qu'il dit. Je dis qu'aujourd'hui, il faut faire reculer le chômage et pas s'en prendre au chômeur. Je vous ajoute quelque chose. Pôle emploi a dit que la fraude était estimée, toute fraude confondue, à 28 millions d'euros. Je vais vous donner une idée de comparaison. Je dis bien que toute fraude doit être sanctionnée. La fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. 28 millions, 80 milliards. Excusez-moi, s'il y a quelque chose à aller chercher. Chez les 1% qui sont riches, qui ont des milliards, des villas, des yachts, des maisons, etc. Avant de s'en prendre, ce qu'il faut faire aussi, à ceux qui fraudent en bas.
Vous
si on pouvait s'en prendre
Gérard
à ceux
Filoche,
qui fraudent en haut, d'abord.
Pourquoi cette mesure est un gadget ? Pourquoi elle stigmatise les chômeurs ? Pourquoi il faut d'abord s'attaquer au chômage ? Les auditeurs sont là pour vous interpeller lorsqu'ils le souhaitent. Qui veut prendre la parole ? Nous avons un auditeur, monsieur, en studio.
Oui, bonjour, Antoine de Rouen. Il y a une première chose déjà sur laquelle je peux vous rejoindre. C'est effectivement, on parle de contrôler les chômeurs, mais qui pour les contrôler ? Je pense que si on demande au personnel de Pôle emploi, qui sont déjà débordés, plutôt que d'aider les... les chômeurs à retrouver de l'emploi si on leur demande plutôt de les fliquer et de les contrôler. Je pense que eux-mêmes ne seront pas d'accord. C'est pas la façon dont ils conçoivent leur métier, je pense.
C'est pour créer un effet plus vertueux, ne pas décourager ceux qui sont en recherche d'emploi, oui, de voir que certains s'accommodent.
Oui, mais bien sûr, mais vous savez, pour l'emploi, les effectifs des personnels sont totalement insuffisants pour faire le travail qu'ils ont à faire. Je crois qu'ils ont des portefeuilles de 120 ou 130 chômeurs. Et pourtant, les radiations, vous pouvez les regarder. C'est des dizaines et des dizaines de milliers. On estime que 400 ou 500 000 ou 600 000 personnes ne sont pas inscrites alors qu'ils y auraient droit. Et vous savez que ce qui est souvent donné en termes d'aide sociale, comme on dit, eh ben, les gens ne s'en servent même pas. Pour le RSA, ils sont même pas un tiers à s'en servir et deux tiers ne savent pas remplir les papiers. Et donc, en vérité, l'argent, quand on s'est budgété, par exemple, pour les aides sociales et pour les indemnités, c'est même pas complètement utilisé parce que les gens ne savent pas se défendre, ne savent pas remplir les trucs. Par ailleurs, Pôle emploi est extrêmement sévère et il y a beaucoup de radiation. Et le personnel de Pôle emploi, ensuite, est en insuffisance totale pour faire son
donc
travail, pour orienter les gens.
Le système est déjà opérant et par ailleurs, opérant pour les contrôles, et les fraudes constatées sont infinitésimales, donc on ne s'attaque pas.
Oui, je vous ai dit tout à l'heure, le chiffre estimé 28 millions d'euros, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pôle emploi la semaine dernière. On a déjà causé de ça il y a 15 jours.
Êtes-vous d'accord avec Gérard Filloche? Il s'explique face à vous, monsieur, vous avez
la
parole.
Alors, Gilles de Paris, donc ce que je comprends pas, en fait, vous dites que le ministre, il stigmatise les chômeurs et il s'en prend aux chômeurs plutôt qu'au chômage. Mais quand je vous entends, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser faire? Parce que vous l'avez dit vous-même, il y a fraude. Dans ce cas-là, que faut-il faire alors?
Excusez-moi, j'ai dit répéter que toute fraude devait être sanctionnée. La loi de la République doit s'appliquer pour tous, qu'on soit pauvre ou riche. Bon, voilà, c'est tout.
Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas de stigmatisation des chômeurs dans ce cas-là. C'est pas les chômeurs qui sont stigmatisés, c'est plus les fraudeurs, en fait, que le ministre cherche à...
Ils sont infinitésimales, c'est-à-dire c'est 0,06%.
Mais on doit bien contrôler pour sanctionner, Gérard Filloche.
Madame, tout doit être contrôlé, vous devez être contrôlé, les employeurs qui trichent doivent être contrôlés, la fraude au droit du travail doit être contrôlée.
Donc François Rebsamen n'a pas tort.
Quoi? Mais j'ai pas dit qu'il avait tort.
Vous considérez que les chômeurs sont des boucs émissaires dans la voie du ministre du travail.
C'est que s'il doit y avoir des priorités, une opportunité pour faire des efforts de contrôle, s'il vous plaît, faisons-le contrôler 1% qui possède 25% du patrimoine.
Et faisons-le aussi peut-être surtout, je pense que plus que les personnes qui ne cherchent pas d'emploi, parce que c'est le vrai problème, c'est les personnes qui ont un emploi au noir à côté et qui n'est pas déclaré. Et à ce moment-là, plus que de chercher du côté des chômeurs, je pense qu'on aurait plus intérêt à aller chercher du côté des employeurs qui ont recours à ces emplois, qui ne participent pas en employant au noir aux cotisations sociales, au chômage, etc. Et je pense que là, de ce côté-là, il y a peut-être...
Je suis vraiment content d'entendre ça, parce que les gens, parfois, ils savent pas. Ils disent, oh, les gens travaillent au noir. D'abord, j'aime pas l'expression. L'expression, c'est travail dissimulé. Et pour qu'il y ait du travail dissimulé, il faut qu'il y ait un patron délinquant. Parce qu'il peut y avoir aucun salarié qui travaille de façon dissimulée sans qu'un patron soit responsable. Parce que c'est le patron qui embauche, c'est le patron qui paye, c'est lui qui ne paye pas les cotisations sociales, et c'est lui qui va prendre quelqu'un en disant « Ah, t'es aux ACEDIC. Allez, continue aux ACEDIC,
puis je te prends. » Vous êtes Gérard Filloche sur Europe 1 pour vous expliquer face aux Français pourquoi il ne faut pas stigmatiser les chômeurs, mais plutôt trouver les solutions du chômage. Martine nous écrit de Bandol: « Il faut faire des contrôles. Certaines personnes n'ont en effet aucun intérêt à travailler car elles perdent des aides. Il faut trouver un système pour les surveiller. Je suis pour et je ne comprends pas votre invité, Gérard Filloche. » Vous comprenez la position de cette dame qui constate aussi certains chômeurs assistés et qui se complaisent dans cette situation.
Écoutez, je vous réponds à ma façon, je respecte cette dame. C'est l'histoire célèbre, vous avez un banquier, cette dame et un chômeur. Et il y a un gâteau avec 12 parts. Le banquier prend 11 parts, et dit à cette dame, dépêchez-vous parce que sinon le chômeur va vous prendre la 12e.
Bon, est-ce que cela vous convainc, Jacques, vous qui nous appelez à l'instant d'Ardèche, à Saint-Clair? Bonjour Jacques.
Oui, bonjour, monsieur Filloche. Je suis très agréablement surpris, moi, qu'un homme de gauche ose parler d'une chose que tout le monde sait un peu autour de nous. C'est très surprenant qu'un homme de gauche dise une vraie vérité pour une fois.
François Rebsamen, pour le citer, je pense que vous parlez de lui, hein, et pas de Gérard Filloche, je crois.
Oui, non, bien sûr.
Vous avez raison, je me sentais mis en cause.
Non. Et donc, je crois que ça, c'est réellement ce qu'on a tout autour de nous. Et je pense que, monsieur Filloche, je ne sais pas si vous avez eu la malchance d'être au chômage un jour, mais oui. Moi, je l'ai été. Je peux vous dire qu'on peut le constater, vraiment, on peut rester au chômage très longtemps sans être contrôlé, et ça, c'est pas normal. Si vous avez vraiment envie de faire manger votre famille aujourd'hui, je peux vous dire que vous prenez n'importe quoi. Et si on arrêtait aussi de faire donc des aides un peu... un smicard aujourd'hui qui gagne 1100 euros net par mois, et quelqu'un qui a le RSA, qui a la CMU, qui a plein d'aides, si vous voulez, aujourd'hui gagne bien presque plus que quelqu'un qui travaille et qui gagne juste le SMIC. Donc ça, c'est pas normal.
Gérard Féloche, voilà. Expliquez-vous pour cet auditeur Jacques, merci de votre appel.
Je vous entends, monsieur, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Il y avait une enquête la semaine dernière qui disait que ce qui était budgété pour les aides sociales, c'est-à-dire RSA, etc., n'était pas utilisé à la moitié ou aux deux tiers, parce que les gens ne savaient pas y aller. Alors il y a peut-être des gens qui savent trop, mais c'est des minorités. Et les gens qui, eux, se contentent pas, vivent avec des indemnités et des aides, n'y arrivent pas. Donc ils cherchent tous un boulot.
On a un monsieur mais en studio,
pas de boulot.
Interpellé. Très bien. Alors voilà le problème. En tout cas, les chômeurs bouc émissaires, il ne faut pas les attaquer. On verra que c'était une idée en 2011 de Nicolas Sarkozy, reprise aujourd'hui par François Rebsamen. Plus contrôlé, expérimentation dans 4 régions. Plus de contrôle pour diagnostiquer les fraudes constatées, éradier, s'il le faut, les chômeurs inquiétés. Il est 12h22. À tout de suite. Petite pause et on revient tout de suite.
La vraie réalité.
Expliquez-vous.
L'explication de texte se poursuit pendant la pause en direct en public avec notre invité Gérard Féloche, ancien inspecteur du travail, membre du bureau national du Parti Socialiste, qui soutient qu'il ne faut pas stigmatiser les chômeurs en renforçant les contrôles. C'est un faux problème et des fraudes infinitésimales. Vous êtes suivi, Gérard Féloche, par un nombre de syndicats, la CGT aujourd'hui, qui accuse le gouvernement de trouver comme seule solution au chômage de sanctionner les chômeurs, par la CFDT qui se dit attirée par cette annonce aujourd'hui également du ministre du Travail. Atterré, oui. Vous l'êtes aussi atterré par un homme avec qui vous partagez des idées socialistes ?
Bien sûr, mais écoutez, c'est pas le seul cas en ce moment où au sein du Parti Socialiste, il y a un débat. La majorité du Parti Socialiste n'est pas d'accord avec la politique de Manuel Valls.
Ça fait 6 mois qu'il est au gouvernement, on se dit donc qu'ils veulent trouver des solutions au problème.
On nous l'a imposé, madame. Ce gouvernement. On nous a pas consulté et la politique qu'on nous impose, c'est pas celle pour laquelle on a voté au Parti Socialiste.
Très bien, Gérard Féloche considère qu'on sanctionne aujourd'hui les chômeurs, qu'on s'en prend pas au mot du chômage. Monsieur, vous trépignez, je vous donne la parole en studio.
Bonjour. François de Paris. Écoutez, j'ai l'impression quand même que M. Hollande et M. Valls reviennent sur Terre. Ils commencent un peu à réaliser les choses. Hein, bon, ça c'est une chose. Encore un petit effort, je dirais encore un petit effort, M. le Président et M. le Premier ministre. Alors monsieur, vous nous dites, on a l'impression qu'il y a des patrons voyous. Et de l'autre côté, il y a des chômeurs qui sont tout blancs, tout blancs. C'est pas la réalité. Il y a en France encore énormément de travail, même pour les chômeurs. Alors évidemment, celui qui est ingénieur, il ne va pas prendre un poste d'employé, de vendeur chez Carrefour ou autre. Hein.
Non mais François Rebsamen s'attaque à ces 350 000 emplois utiles.
On le voit, je le constate. Mais je vois, moi je travaille avec mon fils, je suis un petit commerçant. Je cherche un employé, je le forme, je ne le trouve pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a aussi le différentiel, et ça on en a parlé un peu, le différentiel entre ceux qui touchent le RSA, qui touchent le SMIG, enfin pas le SMIG mais qui, je veux dire, le chômage, et ceux qui travaillent pour le SMIG. Le différentiel, il est minime.
Ils ne sont pas encouragés à travailler. Gérard Féloche, c'est une réalité,
problème, il est là.
La réalité du commerçant qui vous parle.
Alors, simplement, je veux vous dire une chose, monsieur. Si les commerçants, artisans embauchés de moins de 10 employés employaient une personne dans leur société, dans leur entreprise, on réduit le chômage de moitié.
Gérard Féloche, expliquez-nous face à nos auditeurs.
Donnez-nous les pouvoirs, donnez-nous un peu de d'eau à ce moulin, parce qu'on étouffe, on étouffe. Alors, excusez-moi.
Gérard Féloche vous répond, monsieur.
Un million de petites entreprises de moins de 10, je comprends leur souffrance. Il y a 1000 entreprises de plus de 1000 qui font travailler 3 800 000 personnes et qui font la moitié du produit intérieur brut. Permettez-moi de vous respecter, mais de penser que les 1000 de plus de 1000 qui font des marges énormes, des dizaines et des dizaines de milliards de dividendes, étouffent toutes les entreprises qui sont en dessous, tous les PME, tous, etc. Parce qu'il y a toute une chaîne de sous-traitance et à la fin, le plus petit, c'est lui qui est le plus malheureux. Bon, ce qu'il faut, c'est mettre en cause les grandes entreprises qui n'embauchent pas. Écoutez Bouygues, par exemple. Ils ont touché des milliards pour le pacte de responsabilité. Mmh. Et puis le pacte dit compétitivité. compétitivité, je sais plus. Ils vont toucher des milliards. Ils viennent de supprimer 1250 emplois. PSA, ils ont touché je ne sais plus combien de milliards. Ils ont donné 6 milliards à leurs actionnaires, dont 3 milliards à la famille
Peugeot. On est loin du contrôle
des
chômeurs.
Non, madame, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite parce que je parle de comment on peut faire le chômage. Et ils ont supprimé 8000 postes. Sanofi touche des milliards et supprime 1800 postes. Ouais, et après, excusez-moi, monsieur.
Je m'en termine.
Oui, parce que tout. Non, monsieur.
Ça dépend à quel niveau.
Je respecte les petits artisans, les petits commerçants. Je vous dis que tout vient dans ce pays. Le fait que 1% des gens possèdent
très
tout
bien.
Se goinfrent
dernier
et foutent les autres dehors au chômage.
Oui, je voudrais dire, monsieur Filoche, vous dites qu'il y a une fraude. Et donc, concrètement, comment on la contrôle, cette fraude? C'est-à-dire qu'on va laisser des gens qui travaillent pour trouver un emploi, qui tous les jours luttent pour trouver un emploi, à côté de gens qui fraudent. Ben, ça va les démotiver.
Oui, mais aussi, vous savez, la moyenne réelle de travail dans ce pays, c'est 41 heures. Vous avez 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées par les employeurs. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. S'ils respectaient les salariés, les payaient, les traitaient correctement, 600 000 emplois en heures supplémentaires dissimulés pour des gens qui travaillent déjà et auxquels on fait faire travailler plus, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de boulot.
Voilà les paroles d'un homme de gauche très soutenu sur les réseaux sociaux, sauf par certains. Jacques sur Twitter nous dit « Je fais partie de ceux qui payent pour ces détails dont vous nous parlez, monsieur Filoche, qui vous traite d'idéologue. » Mais bon, voilà. En tout cas, vous avez le courage de vos convictions. Merci Gérard Filoche pour ces explications tendues dans le studio d'Europe 1. On se retrouve dans un instant pour vous donner la parole sur l'éducation, notre enseignement mis en cause par l'OCDE. Et à 12h30, car il est 12h30, Christophe Carré. Pour le journal avec les grands titres de ce mardi, Christophe, c'est à vous. Et c'est chaud en studio.
C'est chaud. Le retour en classe pour 12 millions d'élèves. Nous serons dans un instant en Alsace auprès d'une famille de 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Ils sont à leur pause déjeuner. La réaction virulente des syndicats à la sortie de François Rebsamen sur les chômeurs. Le ministre du Travail veut renforcer les contrôles et sanctionner les fraudeurs. Nous verrons ce qu'en pensent les demandeurs d'emploi. Le retour médiatique de Martine Aubry. Nous serons à Lille. Elle s'est confiée tout à l'heure sur les dossiers chauds de la rentrée. Des armes françaises pour les Kurdes d'Irak. Les services spéciaux ont bien réalisé des livraisons. Les détails et les coulisses avec Didier François. Les VTC de l'entreprise Uber interdits d'exercer en Allemagne. Les VTC, comme chez nous, ennemis jurés des taxis. Et puis, une nouvelle mode un peu farfelue à New York. Des gros seins éphémères par injection de silicone.
Midi 14h, Europe Midi.
C'était le grand jour ce matin avec la rentrée des classes et c'est le premier titre de l'actualité, Christophe.
Oui, depuis les toutes premières heures de la matinée sur Europe 1, nous suivons une famille d'Alsace, 4 enfants, des petites jumelles de 9 ans, un garçon de 5 et une grande de 11. Arthur Lembaché, vous êtes avec eux à Aubernay, dans le Bas-Rhin. C'est pile la fin de leur première matinée, pause déjeuner. Est-ce qu'ils sont heureux de cette première demi-journée, Arthur ?
Alors pour la grande sixième, Christophe, on ne sait pas puisque pour la première fois de sa vie, elle mange à la cantine. Le petit de 5 ans, Thomas, lui, n'est pas ravi. Un, Marius, le super copain Marius, n'est plus dans sa classe. Et deux, ce midi, il aurait bien mangé du boudin. Et là, juste à côté de moi, il est en train de manger le poulet que sa maman lui a préparé. Les jumelles, elles, sont ravies. Les jumelles sont en CM2, c'est Perrine et Fanny.
Ce que j'ai préféré, c'était choisir les places avec les copines. Et ce que j'ai préféré aussi, c'est que dans le porte-vue, il faut mettre des étiquettes à la place du classeur parce que comme ça, le classeur, eh ben on n'a pas besoin de l'emporter parce qu'il est trop lourd. Alors on emporte ça pour montrer aux parents à la place du classeur.
Bon, alors moi, je n'avais jamais entendu parler de porte-vue. Alors pour ceux qui seraient comme moi, c'est une sorte de super pochette plastique. Alors dans une heure à 13h30, ce sera le retour à l'école. Et ce soir, explique la maman Marie, la mise en pratique des nouveaux rythmes scolaires.
Alors ce soir, l'école termine à 3h30 et mes enfants vont aller aux activités proposées par la mairie. Alors ce soir, normalement, là, pour la première fois, là, ça va être... mardi, ça va être anglais.
En tout cas, les jumelles, elles ne savent rien de ce qui les attend à partir de 15h30, quel animateur, dans quelle classe, avec quels élèves, etc. Puisque leur maîtresse ne leur a rien dit, pas un mot aux enfants ce matin sur la grande réforme de cette rentrée.
Merci Arthur Lembaché, correspondant d'Europe 1 en Alsace sur cette réforme des rythmes scolaires justement. La mise en garde une nouvelle fois tout à l'heure de la ministre de l'Éducation, l'État fera appliquer la loi, prévient Najat Vallaud-Belkacem. Et puis François Hollande, lui, assistait à la rentrée ce matin dans un collège de Clichy-sous-Bois en région parisienne. Il Il annonce un grand plan numérique pour l'école, des moyens pour les enseignants et du très haut débit partout. Il ne donne toutefois aucun chiffre concernant le budget qui y sera consacré.
On en parlait dès midi avec la réaction à l'instant de Gérard Filoche, atterré par un gouvernement qu'il n'a pas choisi et par cette proposition de François Rebsamen, aujourd'hui ministre du Travail, qui veut renforcer le contrôle des chômeurs à Pôle emploi.
Oui, s'il y a fraude, dit-il, il faut des sanctions. La CGT est furieuse. Elle accuse le gouvernement de chercher un artifice pour faire baisser le chômage. La CFDT se dit, elle aussi, atterrée par les propos du ministre du Travail. Le problème, c'est le chômage, pas les chômeurs, juge Emmanuel Causse, numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. Eh bien, justement, que pensent les chômeurs de ces nouveaux contrôles envisagés et de cette dénonciation de la fraude? On est allé leur poser la question dans un pôle emploi parisien.
Comment on peut penser que les gens se lèvent le matin et sont angoissés à rien faire dans la journée? C'est un peu dégueulasse de dire ça, d'accuser les chômeurs. Ça me dégoûte, ça me donne envie de pleurer, quoi. Les chômeurs, c'est horrible, tout simplement.
Ce dont les gens, ils ont besoin, c'est pas qu'on les punisse, c'est qu'on les aide. Je pense qu'il y a des chômeurs qui en ont marre de ne pas trouver de travail et qui sont un peu désespérés, qui ont arrêté de chercher.
Je pense qu'aujourd'hui, les contrôles sont suffisants, effectivement. On a des rendez-vous avec des entretiens, on doit justifier, effectivement, nos recherches d'emploi, donc soit amener des preuves de candidature envoyées, faire un bilan avec le conseiller. Effectivement, on a déjà des preuves à amener par rapport à notre recherche d'emploi.
Il y a beaucoup de personnes qui se mettent au chômage par facilité.
Il faut renforcer les contrôles. Je crois que c'est comme un petit peu partout. Il y a ceux qui profitent de la société et puis il y a ceux qui veulent vraiment s'en sortir comme moi et qui cherchent, quoi.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par François Geffrier. À propos de chômage, il est reparti à la hausse en Espagne. C'est la première fois depuis février. 4 430 000 Espagnols sont sans emploi. C'est là-bas 24,5% de la population active. Une interview en forme de séance de rattrapage pour Emmanuel Macron aujourd'hui au journal Ouest France. Après ses propos polémiques de la semaine dernière sur les 35 heures, il demande aux entreprises de montrer leur engagement, comme l'a fait le gouvernement de son côté avec le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il fait aujourd'hui sa première sortie sur le terrain dans une SCOP de Romanie, dans la Manche, une société coopérative et participative de 1350 salariés spécialisés dans les câbles high-tech et la fibre optique. Martine Aubry, on ne l'avait pas beaucoup vu ni beaucoup entendu ces derniers mois. Son absence avait même été soulignée à La Rochelle ce week-end pour l'université d'été du PS. Et bien, comme elle l'avait promis, elle ne garde plus sa langue dans sa poche et ne s'interdit plus désormais de commenter la politique du gouvernement et de Manuel Valls, dont d'ailleurs elle n'est pas la meilleure amie. Lionel Gougelot, comme beaucoup d'élus locaux, elle assistait tout à l'heure à la rentrée des classes dans sa ville de Lille et elle a fait quelques déclarations bien senties.
Oui, et visiblement Martine Aubry n'a pas l'intention de laisser Manuel Valls, on va dire, ringardiser l'aile gauche du Parti Socialiste, notamment, vous savez, dans le débat sur l'entreprise. D'ailleurs, elle rappelle que contrairement à d'autres, elle a travaillé dans une grande entreprise, numéro 2 de Péchiné dans les années 80. Mais c'est vrai que maintenant, on la sent un peu agacée par la récente déclaration d'amour de Manuel Valls au MEDEF.
J'aime l'entreprise quand elle crée des richesses. J'aime quand elle respecte la loi. J'aime quand le MEDEF qui a signé un pacte de responsabilité, j'aimerais qu'il apporte les contreparties qu'il a annoncées. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça soit l'état d'esprit du MEDEF. Donc il faut les appeler eux aussi à respecter leurs paroles. Je pense que c'est comme ça que de plus en plus de Français aimeront l'entreprise.
Et puis on l'a vu le week-end dernier, c'est sur le logement que la maire de Lille s'est mise en travers du chemin du chef du gouvernement en réclamant le maintien de l'encadrement des loyers de la loi Duflot. Elle a eu gain de cause et visiblement, elle savoure sa victoire.
Je vois avec grand plaisir qu'il y a d'autres demandes, Grenoble, d'autres qui m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient le demander, mais c'est pas à moi de l'annoncer. Voilà, je crois que c'est un vrai besoin. Vous savez, aujourd'hui, les Français souffrent en matière de pouvoir d'achat. Donc cet encadrement des loyers, nous y tenons. Moi, je peux vous dire que dans ma ville, je ne parle pas pour les autres, c'est une nécessité absolue et je me réjouis que nous puissions le faire aujourd'hui.
Alors, ce matin, pour la rentrée des classes, quand même, Martine Aubry a défendu la réforme des rythmes scolaires, une réforme qu'elle a quand même aménagée à sa façon, c'est-à-dire avec des cours le samedi matin et des activités périscolaires qui seront regroupées sur une après-midi par semaine.
Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Et à propos de la rentrée des classes, sur le fond, sur notre méthode d'enseignement, on va revenir sur ce rapport accablant et ses propos du directeur de l'éducation à l'OCDE qui juge notre méthode pas pertinente, à côté de la plaque. Est-ce qu'il faut vraiment reformer notre système d'éducation? Eh bien, on vous donne la parole au 39-21. C'est le sujet du jour dans 10 petites minutes, Christophe Carré.
Nous étions ce matin auprès des Kurdes d'Irak avec l'envoyé spécial d'Europe 1 et sur place des Peshmerga affirmaient n'avoir pour l'instant reçu aucune arme de la France. Didier François, c'est une déclaration qui nous a interpellés parce que le président Hollande avait dit que des armements avaient bel et bien été livrés.
Mais c'est exact.
Les présidents n'ont absolument pas menti. Hein. Des armes françaises ont bien été livrées aux miliciens kurdes. C'était à la mi-août, à la demande express de François Hollande. Les services spéciaux français ont réalisé 3 livraisons par voie aérienne. Et cela dans des délais d'ailleurs assez brefs, puisque ces rotations ont été organisées en seulement quelques jours. Alors évidemment, hein, on est très loin du pont aérien qui déverserait des tombereaux d'armes sur la ligne du front du Kurdistan. C'est d'ailleurs ni possible ni souhaitable. Et d'abord parce que la France n'a pas un stock illimité de munitions pour matériel soviétique, ce que utilisent les Peshmerga au Kurdistan. Alors ensuite, il n'était pas question non plus de livrer des armes extrêmement sophistiquées, de nouvelle génération. Bon, d'abord parce que ça coûte très cher, on n'en a pas tant que ça. Et puis ensuite, parce que c'est pas utile. Aujourd'hui, les Peshmerga combattent des djihadistes qui sont de l'infanterie légère. Hein, d'ailleurs, des deux côtés, on a des miliciens qui ne sont pas très lourdement équipés. Même si les djihadistes ont pris des armes américaines à l'armée irakienne, ils ne les utilisent pas encore. Et ce qui fait donc la différence dans ce type de combat d'infanterie légère, ce sont les appuis, hein, les canons, les mitrailleuses. Donc, c'est ce que les Français ont fait. Ils ont d'abord livré des mitrailleuses de 12-7. Et puis, surtout, ils ont commencé la formation de 200 miliciens kurdes à l'utilisation de l'obusier de campagne. Ça, c'est très efficace. Il y a une petite équipe de forces spéciales qui s'est installée là-bas cet été et qui, sur le long terme, va entraîner des artilleurs kurdes au tir direct, au tir indirect. Et puis par ailleurs, ces jeunes officiers des forces spéciales ou sous-officiers des forces spéciales savent tous guider au sol des avions. Donc si on leur demandait un jour de faire du guidage au sol d'avions américains ou français, ils pourraient le faire.
Didier, François, on parle...
La transition est pas facile.
À midi, Wendy, d'un tout autre sujet, de gros bonnets. Alors on n'est pas du tout dans le grand banditisme, je vous rassure. On en est même très loin, puisque lorsque je dis gros bonnet, il s'agit d'une mode qui fait fureur à New York, Mélanie Gomez, celle des gros seins éphémères. Ce ne sont pas des soutiens-gorge rembourrés, mais bien de la médecine esthétique.
Alors tout à fait, le principe est simple, il s'agit de piqûres de sérum physiologique. Vous savez, c'est ce produit que toutes les mamans ont dans leur tiroir, par exemple, pour moucher les bébés. Eh bien là, ce sérum, pas dangereux en soi, est mélangé à des sels, puis injecté directement dans la poitrine. Et donc, on peut passer d'un bonnet A à un bonnet C en quelques minutes. Alors, selon le New York Times, les Américaines en raffolent, mais pourtant, c'est éphémère. L'effet gonflant ne dure que 24 heures. Alors le problème, c'est que sous des airs d'actes esthétiques totalement anodins, cette nouvelle méthode est loin de faire l'unanimité parmi les médecins. On n'a aucun recul scientifique, disent-ils, c'est tout simplement dangereux. Écoutez Nathalie Bricou, médecin spécialiste de la chirurgie des seins.
Le plus anodin, ça va être les bleus et les hématomes, parce que ça, il y en aura. Donc, de toute façon, le but visé n'est pas atteint. Dans ce cas-là, c'est même, on est plus montrable. Si vous avez un sein qui est le double de l'autre parce qu'il y a un hématome, le décolleté en question, il sera quand même compromis. Le risque est de faire quelque chose qui n'est pas symétrique. Et puis, le risque un peu plus important, c'est le risque infectieux, qui n'est jamais négligeable. On n'est pas dans des conditions d'environnement, d'asepsie, d'une intervention en salle d'opération.
Alors l'autre point négatif, c'est le prix, jusqu'à 3000 euros pour un effet de seulement 24 heures. Une augmentation mammaire chirurgicale, c'est 5000 euros pour 10 ans quand même.
Merci Mélanie Gomez, j'ai pas de chute.
Non, mais c'est comme un soufflet, ça retombe, c'est très beau au début, puis bon, c'est la nouvelle fable de Cendrillon, quoi. Merci beaucoup, merci Mélanie, merci Christophe pour avoir évité une attaque personnelle peut-être à cet égard. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour.
Bon, alors on le disait, beau temps aujourd'hui, beau temps demain, et les températures, alors, elles nous font toujours plaisir en hausse.
Voilà, température en hausse demain après-midi avec des valeurs en moyenne de 25 degrés sur la moitié nord, 27 à 29 pour les régions de la moitié sud. On va avoir 22 à Dunkerque, 24 à Brest et à Dijon, 25 à Laval, à Lille, à Lyon, à Paris, 26 à Tours, 27 à Biarritz, 28 à Bordeaux, 29 à Toulouse, 31 à Montpellier. Pas de changement en revanche du côté des minimales avec une dizaine de degrés en moyenne et un petit peu moins par endroit dans l'est du pays. Il fera toujours plus doux près des côtes de l'Atlantique et surtout de la Méditerranée plutôt que dans les régions de l'est.
De petites exceptions dans le ciel quand même.
Toutes petites, histoire de dire, petit banc de brouillard et de la grisaille près de la Manche à votre réveil. Et sur la Lorraine et l'Alsace, mais ça va se dissiper très vite. Le soleil va s'imposer comme ailleurs avant la fin de la matinée. Et au sud, aucun bémol, même le vent va tomber dans l'après-midi. L'été est là, alors que nous sommes en automne.
Profitez-en,
hein, depuis le 1er
septembre. Cette rentrée solaire, comme dirait Laurent Cabrol. Alors on va revenir, nous, maintenant à la une, sur le classement PISA, les pays de l'OCDE passés au crible. Et la France, dans la moyenne, mais bon, pour la 5e puissance économique, ça l'affiche mal, disent certains. Pourquoi la France est bonnet d'âne? Pourquoi l'OCDE nous met en accusation et accuse notre enseignement de n'être pas pertinent ni égalitaire? Eh bien, on en parle dans un instant. Vous avez la parole. Réagissez au 3921. À tout de suite.
Pour poser vos questions sur l'actualité, 3921, 34 centimes la minute. Et sur Europe 1.fr. Europe 1. Europe Midi.
Europe Midi.
Midi 14h.
Wendy Bouchard.
En direct en public, merci de porter aussi vos opinions et de questionner nos invités. C'est votre journal, vous le savez, et nous avons le plaisir d'échanger sur un sujet très, très fort, l'éducation, notre système d'enseignement. Je dis très fort parce qu'en plus, nous sommes mis en accusation aujourd'hui par l'OCDE. On en parle avec Laurent Bigorne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Directeur de l'Institut Montaigne. Vous savez que, bon, on vous en parle, on accompagne la rentrée scolaire, on accompagne aussi les critiques qu'il peut y avoir derrière. Et cette petite bombe, vendredi, je ne sais pas si vous l'avez lu dans Le Monde, le directeur de l'éducation à l'OCDE juge que notre enseignement n'est pas pertinent, que nos élèves sont en décalage avec le reste du monde. Et il dit ceci, monsieur Schleicher, en France, on n'enseigne pas suffisamment ce qui sera pertinent pour réussir sa vie. Est-ce qu'il a raison, ce monsieur, de nous tenir une telle morale aujourd'hui, Laurent Bigorne ?
Ah, il s'appuie sur des chiffres. C'est ce qui fait le plus mal. C'est que, effectivement, l'OCDE nous a appris au seuil des années 2000, donc presque il y a 15 ans maintenant, que le système éducatif français, dont on pensait qu'au moins il nous procurait sans doute la meilleure école du monde, le système éducatif français aujourd'hui, quand on regarde à 15 ans, puisque c'est l'âge auquel on regarde les performances des élèves dans le monde entier, tous les 4 ans quand PISA, l'OCDE, donc fait son grand classement, ce système-là nous classe mal aujourd'hui. Il nous classe mal parce qu'il montre qu'on a une grande part d'élèves en grande difficulté. Et en plus, cette part a augmenté presque un tiers en l'espace de 15 ans, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 20% d'élèves en grande difficulté et que par ailleurs, à l'autre bout du spectre, les élèves les meilleurs en France sont sans doute moins nombreux qu'ailleurs. Cerise sur le gâteau, il y a une forte défiance dans l'école française. C'est-à-dire qu'en gros, les petits Français, quand ils vont à l'école le matin, ne se sentent pas bien. Ils ont peur ou ils ne sont pas en confiance. Et c'est très différent de ce qui se passe ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde occidental. Donc il y a quand même, j'ai envie de dire, un tableau assez compliqué qu'on connaît depuis 15 ans et sur lequel, effectivement, l'interview de vendredi est bien revenue et je crois avec des mots assez forts et assez justes.
Avec quelques arguments, parce que vous citiez les chiffres, il y a aussi notre système de notation qui sanctionne, qui est passé au crible par ce.
Oui, bien sûr, dont on se rend compte qu'objectivement, ce n'est pas un instrument de confiance. Hein, on voit bien que la pratique de la notation, qui est un sujet un peu lancinant pour chaque ministre, même si, à mon avis, c'est une question un peu secondaire, mais on voit bien qu'elle contribue à anxiogéniser l'école française plutôt qu'effectivement à créer de la confiance. On va avoir tendance en France à beaucoup plus faire de la pédagogie en refusant l'erreur, en sanctionnant l'erreur, alors que dans beaucoup de pays, on se sert de l'erreur pour faire progresser l'élève.
Est-ce cela qui nous rend moins opérants justement sur le marché du travail plus tard, lorsqu'on a grandi, lorsqu'on a trouvé un
direct.
Métier
un lien direct.
Bon, eh bien, vous allez revenir dans le détail, Laurent Bigorne. Je faisais appel tout à l'heure aux professeurs, notamment, qui nous écoutent et qui connaissent ce système de l'intérieur. Et nous avons Marie au 3921 qui nous appelle d'Angers. Bonjour Marie.
Bonjour Wendy.
Vous êtes prof, vous ?
Alors, tout à fait.
Ouais, vous connaissez le système. Si on vous dit que la France est bonne et d'âne, si on vous dit que le système est inégalitaire, n'est pas pertinent et trop académique, est-ce que vous dites oui aussi, vous, de l'intérieur ?
Alors moi, j'ai un regard un petit peu mitigé. Je partage effectivement la vision des choses concernant l'inégalité dans l'éducation. Je pense que ça reflète un petit peu justement la société de toute façon d'aujourd'hui. Hein. L'école, c'est le miroir de la société. Et puis également sur le côté académique. Donc moi, j'ai eu mon concours il y a 4 ans maintenant. Donc j'ai un master 2, j'ai dû faire Bac+5 pour être enseignante. Donc je trouve effectivement c'est trop académique. Par exemple, la formation des professeurs, on nous apprend beaucoup de théories et très peu de pratiques. Donc on est plus dans les connaissances et c'est finalement ce qu'on inculque nous aussi à nos élèves.
Oui, alors est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Charbonnier qui est analyste à la direction de l'éducation à l'OCDE qui disait ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach que les profs sont emprisonnés dans les programmes et n'arrivent pas à en sortir justement ?
Alors je pense que par contre c'est à la liberté de chacun. Il faut savoir qu'on a des programmes à respecter, mais une fois quand on est dans nos classes, libre à nous d'enseigner ce programme de la manière dont on le souhaite.
Oui,
c'est-à-dire qu'on a des points à aborder, mais finalement je trouve que le plus important c'est la façon dont on va les aborder.
Laurent Bigorne, ça c'est intéressant ce que vous dites Marie, mais est-ce que le système encourage les profs à sortir de ces carcans justement en France ?
Il y a deux choses dans ce que dit Marie. Il y a une chose très importante qui était d'ailleurs rappelée dans l'article du Monde vendredi, c'est que on a besoin effectivement qu'à côté de la formation théorique des enseignants, sur laquelle on a sans doute mis le paquet en France trop. Mmh. Il y a une formation pratique. Notamment, je pense que l'apprentissage, dont on parle tellement pour plein d'autres métiers dans le secteur privé, ferait un sens tout particulier dans l'éducation nationale. On a besoin effectivement que les jeunes profs, même pour confronter leur vocation, soient très tôt mis dans des situations où on va leur demander de comprendre ce que c'est que ce métier, de le pratiquer pendant même leurs études.
Ça se fait dans les autres pays de l'OCDE ?
Bien sûr.
Dans les 7 pays asiatiques qui sont en tête du classement, ça se fait ?
En gros, dans tous les pays d'Asie, ça se fait. Et j'ai envie de dire que Marie serait à Singapour demain, elle aurait 100 heures de formation continue par an.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a 100 heures dans l'année, on lui demanderait d'aller perfectionner son geste enseignant. C'est-à-dire qu'on ferait pas de la théorie, mais on viendrait améliorer sa pratique de classe. Donc, il y a une première chose qui est ça. Sur les programmes, moi, je vais insister parce qu'on est en ce moment, vous savez peut-être, dans cette rentrée, en situation de devoir décider de ce que seront les programmes du primaire. Mmh. Et j'attire l'attention sur l'article de vendredi, parce que le directeur de l'éducation à l'OCDE nous dit, il faut être très ambitieux. Il compare la Suède et la Finlande, il dit c'est les mêmes systèmes éducatifs, peu ou prou, il y en a un qui réussit beaucoup mieux que l'autre parce qu'en Finlande on est beaucoup plus ambitieux. Il faut rester très ambitieux pour les élèves et plus les élèves sont défavorisés et plus il faut être ambitieux pour eux parce que sinon l'école aggrave les inégalités plutôt que d'y porter remède.
Madame en studio, bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Bon, j'ai été moi-même dans l'enseignement. À mon époque...
On est deux.
Bon, nous sommes deux. Et à mon époque, on ne mettait pas, comme j'ai entendu l'autre jour, une institutrice, ici, sur Europe, dire « je vais rentrer, c'est ma première rentrée, je vais avoir un CM2 ». Eh bien non, on ne met pas ni une institutrice en CP ni en CM2 la première année. Elle n'a aucune idée de ce que ce sera. C'est absolument impossible.
Bah, c'est encore un fait que souligne le directeur de cette étude à l'OCDE. Plus on est inexpérimenté.
Plus on est installé dans la carrière et plus on a le choix de ses élèves.
Voilà.
Et effectivement,
c'est pas ce qui se passe en France.
Il faut être capable. Je le disais ce matin sur Twitter, on avait un débat comme ça avec un certain nombre de personnes. Je disais, mais il faut mettre les meilleurs devant les élèves les plus en difficulté. Et comment est-ce qu'on devient meilleur?
Et pas les novices en ZEP, par exemple.
Exactement, mais c'est tout à fait ça. Les meilleurs, c'est ceux qui ont plus d'expérience, c'est ceux qui ont été le mieux formés. Et c'est pour ça aussi qu'il faut quand même qu'on ait en tête que le système éducatif, c'est la somme des talents des enseignants. Et il faut absolument voir cette somme de talents comme un trésor et il faut cultiver ce trésor. C'est quelque chose de très important. On ne le fait pas assez parce que l'éducation nationale, c'est pas bien faire des ressources humaines.
Avec vous, Laurent Bigorgne, on met beaucoup d'idées sur la table et vous nous direz si c'est dans les tuyaux de l'éducation nationale parce qu'on a beaucoup de plaisir à discuter avec vous, mais encore faut-il que ce soit repris par les autorités. On en parle dans un instant. On revient sur cette France bonnet d'âne et jugée très amèrement par l'OCDE aujourd'hui sur un système qui n'est pas pertinent. A tout de suite dans Europe Midi.
Wendy Bouchard.
Encore 5 minutes avec notre invité Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, pour revenir sur ce que dit de nous l'OCDE sur notre système d'enseignement. C'est la responsabilité des syndicats, des profs trop emprisonnés dans les programmes, la faute à la notation, sanction, aux élèves qui récitent très bien mais qui n'ont pas l'esprit de création. Et Laurent Bigorgne nous disait ça se retrouve ensuite dans l'esprit d'entrepreneuriat, dans notre économie. Ce qu'on apprend à l'école, on apprend peut-être à être de bons petits soldats mais on n'apprend pas à être des entrepreneurs notamment.
Ah bah c'est sûr qu'il y a une première grande difficulté, c'est qu'avec 20% d'échecs scolaires, ça veut dire en gros à 15-16 ans, 20% d'élèves qui sortent sans rien de l'éducation nationale, il ne faut pas ensuite s'étonner d'avoir un très très sérieux problème de chômage des jeunes. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner d'avoir un très très sérieux problème de chômage de longue durée tout court. C'est assez normal qu'aujourd'hui, dans une société où il y a de moins en moins d'emplois peu qualifiés, on ait un mal fou à insérer sur le marché du travail des gens que l'éducation nationale ne sera pas parvenue à former. Donc là, il y a un lien qui est substantiel et qui, à mon avis, est sans doute la question la plus importante que les décideurs politiques et économiques de ce pays est à traiter.
Le lien entre l'éducation et l'entreprise, on en parle depuis des décennies.
Et l'insertion professionnelle,
ouais,
tout à fait.
Ça a du mal à venir, on verra si ça inspire de modèle allemand de l'apprentissage. Jeune homme, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Oui, et justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait un petit peu cesser de dévaloriser les filières professionnelles, justement, pour privilégier l'arrivée à l'emploi, pas en faire un petit peu des filières poubelles, comme ça le devient certaines fois, alors qu'on peut former des jeunes qui vont avoir après des parcours très brillants par ces filières.
Mais vous avez raison. Moi, quand j'entends Manuel Valls jeudi dernier dire au MEDEF « j'aime l'entreprise », j'ai une chose en tête, c'est qu'on aimerait au fond entendre la même déclaration d'amour réciproque. Je dis bien réciproque, hein, parce que la déclaration d'amour, c'est mieux quand c'est à deux que soit tout seul, mais de l'éducation nationale pour les entreprises et de l'entreprise pour l'éducation nationale. Et c'est vrai qu'on a besoin, effectivement, d'un lycée professionnel plus tourné vers les métiers, plus tourné vers l'entreprise. Il y a aujourd'hui, par exemple, 20% des jeunes bacheliers en lycée professionnel qui sont en apprentissage. C'est pas assez. Donc on a besoin effectivement d'un grand décloisonnement, de beaucoup de vision, de beaucoup de conviction de la part des différents ministres pour essayer de vendre cette solution dont vous avez raison de dire qu'elle est sans doute la plus forte en potentialité pour l'avenir quoi, de la jeunesse française.
Voilà, des pistes égrenées par notre invité Laurent Bigorne. Nous avons encore une question, un témoignage, monsieur, dans le studio.
Oui, en fait, je me disais, l'éducation française n'est-elle pas sclérosée en fait dans la mesure où elle s'est peut-être endormie sur ses lauriers qui étaient certes glorieux il y a un certain nombre d'années. En fait, quand on regarde aujourd'hui l'exemple de certaines grandes universités, que ce soit américaines ou anglaises, qui distribuent de manière complètement gratuite sur Internet leurs cours, est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas se référer sur l'exemple de personnes comme Xavier Niel qui, il y a 2 ans par exemple, ont lancé une nouvelle forme d'école en fait.
L'école de la seconde chance, ouais. Voilà. École gratuite d'informatique.
Ce que vous dites est passionnant parce que, allez, on va prendre 2 faits. Il y a un premier fait, c'est que si je me place depuis 2007, on a changé 5 fois de ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'en moyenne, en France, depuis 7 ans, le ministre de l'Éducation nationale fait 1,2, 1,3 années. C'est pas normal. Parce qu'on peut pas dire aux gens, je change le système en profondeur, allez, j'y vais, je fais la vraie réforme, et puis changer de ministre, en gros, tous les 12, 18 mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de déconnexion aujourd'hui entre cet état politico-administratif qui a du mal à se saisir de cette question, puisqu'on progresse pas en éducation nationale. Je l'ai même
dit. Ça veut dire quoi?
Ça
veut dire que la machine, le mammouth, use ce qui essaye de.
On n'arrive pas à transformer le système. On essaye. Il y a beaucoup de bonne volonté, hein. Moi, je pointe le doigt vers personne. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais il faut reconnaître qu'on a un problème aujourd'hui d'équité et de performance. C'est-à-dire qu'on a un système qui n'est pas assez performant et on a un système qui est le plus inégalitaire de tout le monde occidental.
De plus en plus de bons élèves et de plus en plus de.
Vous vous rendez compte, l'école française aujourd'hui, elle creuse les inégalités. C'est même pas qu'elle les fige, elle les creuse. Et donc moi, ça me fait mal d'entendre ça et de devoir vous dire à ce midi. Et puis, on a à côté de ça beaucoup d'enseignants, et c'est un peu la tendance d'ailleurs dans beaucoup de pays, qui commencent à contourner le système et qui vont effectivement mettre leurs cours en ligne, qui vont créer leur propre manuel scolaire. Et le système ne sait pas du tout comment gérer ça aujourd'hui, ne sait pas valoriser parce qu'il n'a pas la culture de l'expérimentation et pas la culture de l'évaluation. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un des leviers de transformation du système.
On a plein de jeunes en studio à midi, alors je leur donne la parole encore quelques secondes, jeune homme.
Alors, moi, j'étais en 3e cette année et j'ai passé le brevet et c'était vraiment pour vous dire que le programme d'histoire est vraiment trop chargé. On le survole à la fin de l'année, on n'a fait que quelques chapitres. On finit par des polycopiés qu'on lit à peine. Faut vraiment diminuer ces programmes d'histoire.
Ça veut dire que c'est du bachotage aussi pour vous?
Oui.
Vous n'avez pas l'impression d'apprendre vraiment, d'imprimer les choses?
Non, pas à la fin du programme.
Bon, il y a ça aussi, hein, le brevet, le bac, le bachotage, Laurent Bigorne, c'est encore un mal français.
Moi, je ne vais pas lancer un sujet comme ça parce qu'on n'a pas le temps, mais effectivement, le bac est un mal français. Je pense qu'aujourd'hui, le bac sert plus à grand chose, le brevet des collèges sert plus à grand chose, que personne n'a le courage de le dire vraiment, et qu'objectivement on aurait intérêt à avancer sur ces sujets-là parce qu'on peut certifier les compétences de nos jeunes aujourd'hui avec plein d'autres outils beaucoup plus fins, beaucoup plus intelligents que ces examens qui ne veulent plus dire grand-chose.
Si un gouvernement a l'audace de vous mettre un jour à l'éducation nationale, Laurent Bigorne, ça va déménager. Hein, en tout cas, sur le papier, vous avez plein d'idées. Merci infiniment.
Merci à vous.
Vous qui travaillez pour l'Institut Montaigne, et merci pour vos échanges ici en studio sur ces sujets qui nous touchent, évidemment. Il est 13h sur Europe 1 et au carillon d'Europe 1. Merci de nous être fidèles. On retrouve l'info qui évolue avec vous, Christophe Carré. Ensuite, je vous donne la parole dans cette Europe Midi, Christophe.
François Rebsamen, le ministre du Travail, veut renforcer le contrôle des chômeurs à Pôle emploi. S'il y a fraude, il faut des sanctions. Une ligne qui n'a pas l'air d'être partagée par tout le gouvernement. Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État, estime qu'il faut surtout se concentrer sur des réponses pour développer l'emploi. Côté syndical, la CGT accuse le gouvernement de chercher un artifice pour faire baisser le chômage. La CFDT se dit de son côté atterrée. Le problème, c'est le chômage et pas les chômeurs, juge pour sa part Emmanuel Cosse, la numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie, fait aujourd'hui sa toute première sortie sur le terrain dans une SCOP de Romanie, dans la Manche, une société coopérative et participative de 1350 salariés spécialisés dans les câbles high-tech et la fibre optique. Il se rattrape au passage sur ses propos polémiques de la semaine dernière sur les 35 heures.
Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui déroger de manière législative aux 35 heures, mais j'invitais à la négociation sur celle-ci. Et il ne s'agit pas d'en faire une polémique et d'hystériser le pays avec ce sujet. Il y a des tas d'entreprises, des tas de branches où les 35 heures sont une bonne chose, où elles sont adaptées, où les gens vivent très bien avec. Dans d'autres catégories d'entreprises, dans d'autres secteurs, elles ne semblent pas adaptées aujourd'hui. Et donc, il faut permettre aux gens d'être intelligents. C'est, j'espère, la négociation qui va le conduire. Mais ça n'est pas une décision du gouvernement aujourd'hui, et ça n'est pas en tout cas une décision du ministre de l'économie.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 de François Coulon. François Hollande annonce un grand plan numérique pour l'école sans préciser toutefois le budget qui y sera consacré. L'État mettra tous les moyens pour former les enseignants et pour assurer partout l'arrivée du très haut débit, dit le président. Il assistait ce matin à la rentrée des classes dans un collège de Clichy-sous-Bois en région parisienne. La rentrée et les nouveaux rythmes scolaires, l'État fera appliquer la loi, prévient la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a encore une vingtaine de maires récalcitrants qui maintiennent leur décision de les boycotter et qui laisseront demain leurs écoles fermées. Le débat sur les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur en France, ce sont les ennemis jurés des taxis. Ils font des vagues également en Allemagne. David Philippot, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Un tribunal de Francfort vient d'interdire au groupe américain Uber d'exercer son activité dans tout le pays.
Oui, c'est une interdiction immédiate et valable sur tout le territoire allemand et une interdiction assortie de peines très lourdes en cas de nouvelle infraction, une amende de 250 000 euros pour la société Uber et la résiliation de son contrat d'assurance pour le particulier, le conducteur qui, selon le raisonnement du tribunal, n'a pas d'habilitation d'autorisation officielle et du coup, il enfreint le droit allemand sur la protection du consommateur. En résumé, le service proposé par Uber ne garantit pas le transport du passager en sécurité en compagnie d'un chauffeur homologué. La justice allemande a donc pris le parti des taxis. C'est un syndicat qui avait porté plainte et c'est une grande victoire pour les chauffeurs qui souffraient de cette redoutable concurrence avec des tarifs pour une course souvent divisés par deux. Et c'est donc un coup de frein brutal pour l'expansion de la start-up californienne, la société Uber, qui a déjà annoncé qu'elle allait faire appel.
Merci David Philippot, correspondant d'Europe 1 en Allemagne. L'Ukraine, l'Europe finalise des sanctions contre la Russie pour son rôle dans l'est du pays. Une décision sera prise d'ici la fin de semaine. C'est ce qu'annonce la future chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. À l'US Open de tennis, plus que deux Français encore en lice pour une qualification en quart de finale. Ce soir, Gilles Simon affronte le Croate Marin Cilic. Gaël Monfils sera opposé au Bulgare Grigor Dimitrov. Cette nuit, Joe Wilfried Tsonga a été balayé en trois manches par l'Écossais Andy Murray. Et puis la très belle histoire d'un couple italien, Wendy, dans un restaurant du sud de Naples. Un fiancé y avait réservé une table pour sa petite amie depuis une quinzaine de jours pour y déguster des huîtres. Le patron n'en avait plus, il a dû se précipiter chez le poissonnier voisin pour acheter les trois dernières. Il y avait dedans cinq perles, valeur 2000 euros.
Oh là là, c'est un beau présage, ça. Merci. Vous êtes romantique, Christophe, ça fait plaisir. À l'heure du déjeuner, offrez des huîtres à votre fiancé. Tout ça sous un soleil d'été, Valérie Darmon et c'est beau pour la semaine, au moins jusqu'à mercredi, demain, jeudi encore
oui,
un peu.
Oui, oui, il n'y a aucun changement. Les hautes pressions qui font leur travail, enfin. Et demain et jeudi, beau temps pour tous, partout. C'est vendredi que le ciel commence à s'ennuager sur la moitié nord, nous laissant encore une belle impression de beau temps tout de même. Mais plus de passages nuageux qu'aujourd'hui, par exemple. Et puis ce week-end, le temps qui va rester estival en un petit peu plus nuageux, tout simplement parce que ces mêmes hautes pressions auront tendance à se replier sur l'Europe centrale, tandis qu'un autre anticyclone va venir se positionner sur les îles britanniques. Ça nous met dans une situation de ce qu'on appelle un marée barométrique, c'est-à-dire qu'il y a variation de pression, mais de pression faible. C'est pour ça que le ciel sera un peu plus nuageux ce week-end, mais quand même avec une impression toujours très estivale.
D'accord.
D'autant que les températures vont s'envoler, on va repasser au-dessus des moyennes de saison, 2 à 3 degrés au-dessus. On va avoir par exemple 26 à Paris ce week-end, 22 à 24 en bord de Manche, 24 à 26 dans le nord-est et 28 sur le Val-de-Loire, 31 du sud-ouest aux régions méditerranéennes.
Merci. Marée barométrique.
Voilà.
Eh bien, on en apprend des choses. Merci beaucoup. Europe Midi, c'est votre journal avec vos appels, vos témoignages sur l'actualité. Et comme chaque jour, 13h30, le débat. Fallait-il revenir sur l'encadrement des loyers ? Emmanuel Valls a-t-il bien fait ? A-t-il favorisé les propriétaires ou soulagé le marché ? Eh bien, vous nous dites ce que vous en pensez au 39-21. Voici maintenant votre choix d'actualité.
Europe Midi. Europe Midi. Midi 14h. Wendy Bouchard.
En direct et en public. Et oui, à 80% sur notre site internet europe1.fr. Vous avez souhaité revenir sur plusieurs faits qui viennent à nous interroger sur la violence des filles, des adolescentes. On parlait vendredi dans cette Europe Midi des ados de 14 et 15 ans interpellés pour leur projet djihadiste, vous vous en souvenez. Et puis hier, il y a eu ce fait divers, trois jeunes filles de 16, 17, 20 ans mises en examen pour actes de torture sur l'une de leurs camarades. camarades. Tout cela nous conduit à poser la question suivante. Les filles sont-elles plus violentes que les garçons? Comment expliquer cette folie adolescente? On en parle avec Patrice Huert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et vous connaissez les adolescents, évidemment, dans le détail, auteur de Adolescentes, les nouvelles rebelles aux éditions Bayard. Patrice Huert, acte de torture, séquestration pour cette jeune fille qui a été attachée, frappée avec des tessons de verre pour lacérer son corps et son visage. Les ados, filles, est-ce qu'elles ont une propension au sadisme, à la violence aujourd'hui? Comment vous expliquez ce phénomène ahurissant?
Non, je crois qu'il faut, il faut rappeler qu'il s'agit de phénomènes et de situations exceptionnelles. On ne peut pas dire qu'elles ont une propension au sadisme, pas plus que les garçons d'ailleurs. Par contre, ce que l'on peut observer déjà depuis un certain nombre d'années, c'est l'augmentation de comportements chez les filles adolescentes qui étaient plutôt l'apanage des garçons autrefois. Mmh. Des actes de délinquance, l'alcoolisation, des transgressions diverses ou variées, des provocations verbales, gestuelles, etc. Donc il y a cette espèce de rattrapage par les filles de comportements plutôt masculins jusqu'alors.
Comment on l'explique? C'est un mimétisme? C'est la société qui nous conduit à se masculiniser quand on est jeune fille?
Alors, il y a énormément de facteurs explicatifs. Il y a évidemment des facteurs liés à notre société, à l'évolution des mœurs, à l'idée avec la confusion entre égalité, homme-femme, garçon-fille, qui est évidemment une juste cause, et confusion qui aboutirait à penser que c'est la même chose. Il y a des mécanismes aussi de protection, paradoxalement, parce qu'on va voir certaines jeunes filles qui, se sentant menacées dans leur environnement de vie habituel, vont penser qu'en copiant d'une certaine manière les plus durs des garçons, elles pourraient peut-être mieux se protéger de leurs agissements éventuellement. Donc on a énormément de facteurs qui peuvent contribuer à cela.
D'accord, nous avons Jacques sur Europe1.fr qui nous dit qu'il habite à Béziers. Pendant les vacances, après des soirées alcoolisées, j'ai constaté que les groupes de filles étaient hyper violents. Des filles agressives qui boivent énormément, ça me choque. Je ne sais pas comment expliquer ces comportements, en tout cas ce n'était pas comme ça de mon temps. Alors c'est vrai que bon, ces filles qui boivent, qui s'alcoolisent, ces soirées agitées, c'est un phénomène qu'on peut dater, ça, Patricia?
Oh, il y a 10-15 ans environ que ça prend de l'importance, et surtout que ça se manifeste par un rajeunissement de ces conduites-là qui autrefois étaient plutôt plus tardives. Aujourd'hui, dès le début du collège, on va voir effectivement les soirées alcoolisées et du coup la désinhibition que cela peut occasionner, parce que sous alcool, on peut être amené évidemment à agir autrement qu'on ne le ferait autrement.
On décomplexe une certaine barbarie qu'on a en soi quand même. C'est le cas ici de ces filles qui...
Tout être humain a un potentiel violent, soit dans violence, il y a aussi vie. Mais le problème, c'est la manière dont cette vitalité, cette agressivité s'exerce. On pourrait estimer que la civilisation doit aboutir à ce que cette violence se transforme et soit sublimée en activité sociale, en intérêt artistique, sportif, etc. Et non pas s'exerce sur un mode animal. Mais on voit qu'il y a aussi l'influence des images médiatisées de violences un peu partout dans le monde. Ce n'est pas nouveau, mais on les voit d'autant plus qu'elles sont de plus en plus fréquentes. Mmh. Chaque jour, on a un lot d'images terribles et que ça imprime une certaine marque sur des esprits qui sont encore immatures et en construction.
On va parler avec vous, Patrice Huert, de ces formes de délinquance. Il y en a de spécifiques aux jeunes filles, de ces filles aussi violentes que les garçons, et on se demande comment expliquer ce phénomène. Vous avez la parole aussi en studio, vous le savez, avec une question, un témoignage, jeune homme.
Oui, bonjour, Antoine. Bonjour. De Rouen. Je suis un peu dérangé déjà par les propos que vous citiez de l'auditeur sur Europe1.fr. Mmh. Enfin, moi, ce genre de choses me choque tout autant chez les filles que chez les garçons. Mais j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'il y a une... Enfin, vous disiez la société peut avoir une importance, et notamment les violences que peuvent subir les filles, les jeunes filles dans certaines franges de la société peuvent accentuer la violence après des filles. Est-ce que cette augmentation de la violence, on la retrouve plutôt dans certaines parties de la société?
Alors non, pas vraiment, même si médiatiquement ça apparaît comme tel. Disons que les formes de violence vont être différentes, comme les formes d'alcoolisation ne sont pas les mêmes si on a les moyens financiers de s'alcooliser ou si on ne l'a pas. Hein. Mais le phénomène fondamental reste à peu près le même. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que ce soit très partagé, ce n'est pas l'apanage d'une catégorie sociale, et que effectivement, les jeunes filles se sentant menacées peuvent être amenées à adopter des comportements dont elles estiment qu'ils pourraient les protéger davantage que la féminité exposée.
Exactement ce que nous dit Audrey de Sainte-Maxime. Est-ce que les ados ne se sont pas radicalisés dans leur violence sur Internet en partageant notamment leurs opinions publiquement?
Alors ça, c'est l'autre facteur explicatif, c'est l'entraînement par le groupe, les effets de groupe. Et on sait que c'est un âge où on est très intéressé par ce qui se passe dans la même génération et qu'on peut prendre pour modèle, y compris le pire.
Oui, et tout dire sur Facebook sans aucun filtre.
Alors il y a
coup,
cette exposition de soi, cette extimité dont parlait Serge Tisseron, il y a cette manière d'exposer donc sa vie personnelle et avec une surenchère pour conforter un sentiment d'existence. Bien souvent, des adolescents d'aujourd'hui, surtout les plus vulnérables, vont avoir dans l'idée que en exposant des exploits entre guillemets, y compris violents ou transgressifs, ils vont avoir un retour sur image gratifiant et les rassurant sur leur existence aux yeux des autres.
La violence chez les filles, vous nous dites ce que vous en pensez, vous réagissez au 39-21, on essaye de comprendre les mécanismes de violence et de barbarie. On l'a vécu hier à La Roche-sur-Yon avec une camarade torturée pour une affaire de copains, de jalousie. Et puis ces jeunes filles aussi qui partent avec cette envie de faire le djihad. C'est un autre aspect, on en parlera avec vous. Encore une question, vous avez le micro, jeune homme en studio.
Oui.
Je dis jeune homme, alors on me dit souvent jeune homme, on a l'impression que tu as 85 ans, mais je dis jeune homme parce que je ne connais pas vos prénoms, mais vous pouvez vous présenter.
Oui, donc je m'appelle Edouard, je viens de Paris.
Bonjour.
Oui, le titre de votre livre c'est Adolescentes, les nouvelles rebelles. Mais est-ce que pour vous, toutes les adolescentes, faut généraliser son rebelle ou au contraire, juste une partie de la population?
Non, non, non. Puis être rebelle, tout dépend ce qu'on met derrière ce terme. Hein. Être rebelle, c'est un âge où, à l'adolescence, il n'est pas étonnant de l'être, pour construire sa propre voie. Non, là, évidemment, on peut absolument jamais généraliser. Par contre, il y a un mécanisme assez inquiétant dont les statistiques révèlent l'ampleur croissante, qui est l'augmentation du nombre de jeunes filles qui sont concernées par ces actes. Alors il faut évidemment pas généraliser. L'immense majorité des adolescents et des adolescentes vont bien et ne sont pas dans des conduites agressives, violentes, sadiques ou transgressives. Faut faire attention aussi à ne pas donner une image d'une génération qui serait associée à quelques actes isolés. Il n'empêche que il y a une espèce de progression quand même dans des conduites, alors là beaucoup plus banales que ce dramatique fait divers, de transgression, de provocation et parfois donc de mise en danger de soi alors que ce n'est pas du tout ça qui est souhaité. Et
oui, puis les scarifications, les piercings, les tentatives de suicide chez les jeunes filles.
Absolument, qui sont quand même les plus touchées par les tentatives de suicide et les scarifications encore. Et puis on voit aussi que, par exemple, la peur va pouvoir générer parfois des mécanismes de grande violence exercés sur d'autres, que ce que l'on voit dans les phénomènes comme le happy slapping où, en filmant une scène de violence que l'on induit, on peut filmer aussi la peur qu'éprouve la victime et ainsi se familiariser avec la peur que soi-même on éprouve, c'est-à-dire une manière de faire vivre à l'autre ce que l'on a peur de vivre, ouais, ou ce que l'on a vécu
drôle
ailleurs.
Drôle de mécanisme psychologique. Je voudrais qu'on termine sur le djihad, la guerre sainte. Quand on en rêve à 15 ans, c'est qu'on est illuminé, déséquilibré. C'est ce que sous-entendait notre invité lorsqu'on en parlait, Antoine Basbous. Vous en pensez quoi, Patrice Huert?
Il
n'y a pas d'autre explication?
Moi je pense qu'il y a beaucoup d'autres explications. Il y a en général la corrélation entre une certaine fragilité personnelle, un certain flottement dans sa situation familiale, culturelle, sociale, etc., plus la rencontre avec l'aspiration à un idéal que notre société offre peu aujourd'hui à la génération montante et qui se trouve tout à coup rendu possible par des extrémistes qui, eux, vont profiter de la vulnérabilité de ces jeunes qui cherchent avant tout la rencontre avec un idéal et la réalisation de soi. Et là, il y a vraiment un malentendu dramatique.
Est-ce qu'il faut conclure, comme David sur Facebook, qu'il faut se pencher sur les parents et sur l'éducation qu'on donne à ses enfants?
Oui, tout en sachant qu'évidemment, ça ne empêchera pas tout, et en particulier les rencontres via Internet ou en direct, avec des personnalités suffisamment, je dirais, folles au sens courant du terme, pour pouvoir entraîner dans leur sillage des jeunes qui sont en recherche d'eux-mêmes.
Adolescentes, les nouvelles rebelles, c'est chez Bayard. Patrice Huert, psychiatre spécialiste des ados, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce phénomène de la violence chez les filles, la violence de groupe notamment. Petite pause et puis on s'arrête sur cette info étonnante qui vous a fait sourire. Un nouveau délire chez les Américaines fortunées, se faire gonfler les seins pour 24 heures. Et on se demande jusqu'où peut-on aller en matière de chirurgie esthétique avec un docteur qui connaît bien le sujet. À tout de suite.
Europe Midi.
Wendy Boucher.
En direct et en public sur un sujet qui concerne bien votre esthétisme, mesdames, se faire gonfler les seins pour 24 heures. C'est la dernière tendance aux États-Unis. C'est pas encore arrivé en France, mais on se demande jusqu'où peut aller le culte du corps et du physique. Cette information, elle est avérée. Pour ces femmes, c'est mieux qu'un soutien-gorge push-up, sauf que ça coûte entre 400 et 2600 euros et que le carrosse se transforme en citrouille au bout de 24 heures, il faut le savoir. Donc si vous avez un week-end galant, c'est très bien. Le lundi matin, c'est plus compliqué. Bonjour Sidney Ohana.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien esthétique à la clinique Pétrarque dans le 16e arrondissement. Tout cela, vous connaissez, ces volontés, ces souhaits des patientes, vous connaissez aussi. Là, vous dites stop, on va trop loin ou pas?
Alors, c'est la chirurgie la plus pratiquée dans le monde, quasiment en chirurgie esthétique. Les seins, c'est vraiment une demande qui augmente encore beaucoup maintenant, malgré les problèmes de prothèses dont on a parlé il y a quelques années. Donc, ça ne reviendra pas en arrière. Les femmes aiment avoir une poitrine un peu plus marquée que ce qu'elles ont, ou en tout cas avoir une poitrine sexy. Par contre, il y a un principe auquel on ne doit pas déroger, c'est qu'il ne faut faire de la chirurgie ou des actes que quand il n'y a pas de risque. Donc avec cette nouvelle technique dont vous venez de parler, qui consiste à injecter du sérum physiologique dans le sein. Du sérum physiologique, c'est une solution salée.
C'est de l'eau salée, quoi.
C'est de l'eau salée, ça se vend en pharmacie, ça sert à nettoyer les narines des enfants, etc. C'est tellement facile d'acheter cela, une seringue, une aiguille, et de l'injecter dans le sein.
Oui, pas soi-même, hein.
Alors, certaines personnes. Il y en a qui le font eux-mêmes, d'autres qui vont voir à New York une infirmière ou autre, pas forcément un médecin. Donc, ça va devenir trop facile à faire. J'ai vu sur des blogs, parfois faits par le petit copain qui.
Oui, avec un sein plus gros que l'autre, là, c'est raté.
Bon, même si c'est raté, c'est pas le problème. Mais c'est le danger de l'acte lui-même. Il n'y a jamais de risque zéro en chirurgie. Et même une injection pourrait introduire des microbes dans un sein. Si la peau n'est pas très nettement nettoyée, du staphylocoque pourrait rentrer à l'intérieur, créer un abcès, des calcifications.
Ça peut être dramatique.
Ça peut gêner la lecture des mammographies plus tard.
Oui.
Ça peut perturber beaucoup de choses. Si c'était quelque chose d'anodin, on n'aurait pas attendu l'année 2014 pour parler de cela.
Bon, Sidney Ohana, vous dites que ce n'est pas sans risque, mais il faut expliquer à nos auditeurs qu'au départ, ces injections, elles servaient à montrer aux patientes à quoi pourrait ressembler leur sein avec une extension mammaire. Ça a été récupéré en business. Ça, c'est aussi le problème, le revers de la médaille de la chirurgie esthétique dans le monde.
Même ce geste qui consistait à injecter dans le sein pour lui regarder est-ce que ça vous suffit avec 100 cc de plus, 150 cc, a été complètement abandonné parce qu'il y a eu des complications de ce geste. Donc on est passé à une autre façon de présenter le sein en mettant un coussinet dans le soutien-gorge pour leur dire voilà un coussinet de 20, de 100, de 200, ce qui est beaucoup plus prudent et beaucoup plus sage.
D'accord, donc là on est dans une récupération délicate, dangereuse
et un peu commerciale.
Encore un moyen simple de se faire de l'argent rapidement et sans risque, nous dit Yves sur Facebook, il a compris, et Inès ajoute 3 500 $ pour seulement voir ce que l'opération pourrait donner. Elle conjugue votre réflexion sur l'aspect commercial du problème. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions ici en studio, parce que, on voyait les risques et les dangers du culte du corps aussi. Comment repousser les limites? On va étendre la réflexion avec notre invité sur le sujet.
Bonjour, Gilles de Paris. Une question en fait dans ce cas, parce que vous disiez quelque chose de très intéressant. Si c'est une pratique qui était sans risque, on n'aurait pas attendu 2014 pour la pratiquer justement. Et la question qui me vient dans ce cas, c'est qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui on en parle tant et qu'aux États-Unis ça fasse fureur?
La pression du dictat des apparences. Ce dictat s'impose à nous tous malheureusement. Parce que l'image est devenue prédominante dans nos relations sociales, publiques, professionnelles, et que, à moindre coût, les gens peuvent essayer de se faire plaisir à un moment comme cela.
Ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit, on joue avec son corps, on a juste envie d'être belle pour une soirée, pour un week-end, et on en arrive là.
Absolument.
On banalise totalement l'acte, finalement.
On le banalise.
C'est une chirurgie.
On est passé par le piercing, par les tatouages, et là, maintenant, on se sert de son corps pour augmenter, diminuer. Donc, on instrumentalise son corps au profit d'une apparence.
Ça doit rester entre les mains des professionnels dont vous êtes, Sidney Ohana. Au 3921, vous nous dites ce que, vos réactions sous ce prétexte de modernité, ces manières de jouer avec nos corps dans tous les sens. Je vous attends, n'hésitez pas. Jeune homme, bonjour. Alors, votre impression, vous auriez une amie, une petite copine qui ferait ça, vous l'en dissuaderez ou pas?
Mais oui, parce que je me demande si à un moment, il n'y a pas finalement une question d'éthique à instrumentaliser de cette façon le corps. Est-ce que vous, comme chirurgien esthétique, comment vous vivez cette question de l'éthique auprès de vos patientes, par exemple?
C'est très beau, une question comme ça, par un jeune homme, si jeune. C'est le vrai problème. Et moi, je considère que le chirurgien doit être le garde-fou du système. Parce que certaines patientes sont tellement exigeantes que si on acceptait toutes leurs exigences, on finirait par faire vraiment des bêtises. Donc c'est à nous de refuser. On a un devoir de savoir refuser dans certains cas, même si elle insiste, et ça arrive très souvent. eh bien à ce moment-là, on refuse, quitte à ce qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Et elles finissent toujours par trouver quelqu'un d'autre et par se faire hyperbotoxer ou par se faire grossir les seins de plus en plus. Malheureusement, c'est comme ça, elles arrivent toujours à trouver quelqu'un. Mais dans notre déontologie, on doit refuser.
Avec quelques chiffres et ces effets de mode, 4 Français sur 10, Français et Françaises, envisagent une intervention sur au moins une partie de leur corps. Les Françaises privilégient l'épilation laser. Les effets de la grossesse ont gommé la cellulite par l'liposuction, les liftings des rides du visage, les paupières, les cernes, voilà, qui arrivent dans le top des interventions que vous réalisez. Il y a les effets de mode qui jouent beaucoup. On refait le nez, on refait la bouche, on sait, et les seins.
Non, ce n'est pas des modes par période. Mais là, je ne sais pas si j'ai pas entendu, si vous avez parlé de la lipoaspiration qui reste un très grand classique de la chirurgie esthétique, mm-hmm. et qui reste probablement en deuxième position.
Absolument, deuxième position, oui.
Voilà. Non, il n'y a pas d'effet de mode. Quand les découvertes technologiques et techniques permettent de traiter quelque chose de nouveau, comme la lipoaspiration qui a été découverte, à ce moment-là, la demande apparaît. C'est-à-dire qu'elle existait, on n'avait pas de solution, et là, on a pu y répondre.
Se faire gonfler les seins pour 24 heures d'effet, qu'en pensez-vous? 39-21, vous nous dites ce que cela vous inspire et jusqu'où on peut aller en matière de chirurgie esthétique, jeune homme.
Oui, bonjour. J'étais un peu... ça m'a un peu troublé ce que vous avez dit tout à l'heure sur le diktat de l'image s'impose à nous, mais justement, je trouve qu'il faut, refuser ce diktat. Il faut assumer sa différence, et cette différence qui est belle. Alors, je peux comprendre que parfois la chirurgie esthétique soit importante, par exemple pour des personnes qui ont eu des maladies, des cancers, etc., pour aider à la guérison en entier. Mais j'ai beaucoup de mal toujours à vouloir quand on met la médecine, la chirurgie au service d'une uniformité et d'un effacement des différences et de la beauté des gens.
Il n'est pas question de mettre la médecine au service d'une uniformité, pas du tout. Il est question d'essayer de mettre quelqu'un en accord avec soi-même, qu'une femme soit bien dans ses baskets, qu'elle n'ait pas de complexe parce qu'elle n'a pas du tout de seins, qu'une jeune fille de 18 ans, de 20 ans qui a une bosse sur le nez ne soit pas gênée quand elle se regarde dans la vitrine d'un magasin. On est là simplement pour éviter que le complexe ne s'enquiste et que ce soit dangereux. Pas pour que tout le monde se ressemble les uns aux autres. Absolument pas. Donc c'est la souffrance d'une patiente qui nous amène à prendre la décision. Si la souffrance est complexe, oui, on écoute et on est attentif. Et à ce moment-là, on pèse les risques, on explique les inconvénients. Et à ce moment-là, on peut passer à l'acte.
Un chirurgien esthétique au discours raisonnable qui est là pour vous éclairer. Je remarque que ce ne sont que des hommes qui prennent la parole sur ce sujet de la chirurgie esthétique, des limites de la chirurgie, monsieur. Encore une petite question.
Oui, bonjour Jean-François. Écoutez, docteur, n'est-ce pas un peu la faute des hommes? Parce que quand on
est... Pas dans ce studio, en tout cas. Hein.
N'est-ce pas? Moi, mais je crois qu'il y a un peu la faute des hommes. Parce que les femmes veulent être belles, elles veulent être belles et jolies pour les hommes, pour un homme. Mais je pense qu'il faudrait peut-être éduquer les gens, hommes ou femmes, qu'il y a le cœur, il y a le corps. Et quand on aime quelqu'un, c'est avec son cœur et non avec le corps.
Oh,
c'est très beau, mais malheureusement, c'est pas comme cela que ça se passe en réalité.
Et puis c'est votre, quand même, c'est votre métier.
L'intérieur, c'est beau, mais l'extérieur, on le voit bien. Chacun de nous est critique sur l'extérieur dès qu'il voit une personne. Et donc malheureusement, c'est comme cela. Et c'est pas la faute des hommes, c'est aussi la faute de l'éducation. Moi, j'ai mal éduqué peut-être ma fille, parce qu'il n'y a pas un jour de sa vie où je n'ai pas dit que c'était la plus belle. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant encore. Et j'espère que tous les parents le font aussi. Ça valorise leurs enfants. Donc c'est pas l'homme, c'est pas par rapport au regard de l'homme simplement, mais c'est même par rapport au regard de ses parents. Et chacun de nous trouve ses enfants les plus beaux, et c'est bien, et ça les valorise. Et si parfois il faut les aider par un petit geste technique, sans risque encore une fois, j'associe toujours ce problème. Il faut qu'il n'y ait pas de risque, il faut bien les peser. À ce moment-là, on peut passer à l'acte.
Merci beaucoup, Sydney et Oana. Et vous vous appelez vraiment à la vigilance sur cet effet de mode, pour le coup, parce que c'en est un sur ces seins que l'on peut se faire gonfler en 24 heures. Risque de staphylocoque, c'est une injection qui peut être délicate et dont on ne connaît pas encore les incidences, mais vous en avez dit certaines très graves.
Et puis, il y a un risque. Si on le fait souvent, on va distendre la peau et le sein finira par tomber. Si on s'amuse à faire cela souvent, c'est une distension de la peau.
Voilà l'image qui vous fera réagir. Merci beaucoup Sydney Oana. On se retrouve dans un instant avec notre débat du jour. Fallait-il revenir sur l'encadrement des loyers? Marie-Noëlle Lindemann affronte Jean-François Buette de la FNAIM. À tout de suite.
Europe 1.
Europe Midi.
Wendy Bouchard.
En direct, en public, une demi-heure pour débattre en votre compagnie au 39-21. N'hésitez pas à nous appeler. Fallait-il revenir sur l'encadrement des loyers, une mesure qui grippait, selon certains, le marché de l'immobilier? Vous savez qu'avec le logement et l'immobilier, nous avons deux priorités de cette rentrée pour le gouvernement et que Manuel Valls a donné la preuve de tout cela en s'attaquant à la loi du flot qui, pour ses détracteurs, a contribué à geler le marché. Crise du BTP, pénurie de maisons et d'appartements. Et donc, ce gouvernement souhaite inverser la tendance. Voilà pourquoi ce Premier ministre décide de détricoter la loi Allure. Et parmi les dispositifs phares de ce texte, l'encadrement des loyers et la garantie universelle des loyers qui ont fait fuir les investisseurs. Qu'en pensez-vous? Était-ce au contraire un moyen de protéger les locataires contre les abus des propriétaires? Fallait-il revenir là-dessus pour libérer les énergies, comme on dit? Eh bien, on reçoit pour en débattre nos deux puncheurs du jour, Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice socialiste de Paris, dans le studio d'Europe 1, figure de l'aile gauche du Parti Socialiste, et Jean-François Buette, président de la FNAIM, spécialiste de l'immobilier. Madame et monsieur, installez-vous en studio. Vous avez des auditeurs avertis, des propriétaires, des locataires qui sont là aussi pour vous interrompre et pour apporter de l'eau à votre moulin et aux différents arguments que vous allez nous mettre sur la table. Bonjour Marie-Noëlle Lindemann.
Bonjour.
Et bonjour Jean-François Buette.
Bonjour.
Je vais vous donner d'abord une minute chacun pour argumenter pour ou contre cette mesure. Est-ce qu'il fallait conserver l'encadrement des loyers? Dites-nous pourquoi il le fallait à votre égard et selon vos convictions. Marie-Noëlle Lindemann, c'est à vous pendant une minute.
Il y a eu un grand débat à l'Assemblée nationale et tous les arguments qui sont aujourd'hui de nouveau ressortis étaient déjà là pendant le débat. Nous sommes dans un pays où il faut respecter le cadre. Les députés ont voté, le Sénat a voté cette loi et les deux assemblées, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'on a souvent au Sénat un vote contre, ont voté la loi Allure. Donc à partir de ce moment-là, nous avons pourquoi nous avons fait un encadrement, mais une régulation des loyers. Qu'est-ce qui est prévu? C'est qu'il y ait dans les grandes métropoles, pas partout sur toute la France, pas dans les zones rurales, pas dans les zones où détendues où les prix sont raisonnables, dans les grandes métropoles, et on met en place un observatoire des loyers qui fixe assez détaillé, de façon assez détaillée, quel est le loyer médian, moyen. Pour éviter qu'il y ait des dérapages, eh bien, on ne peut pas avoir des loyers qui soient supérieurs à 20% au-dessus du loyer médian. Et d'ailleurs, par ailleurs, quand il y a des loyers trop bas, on autorise les propriétaires à pouvoir rattraper quand il y a vraiment trop bas. Voilà. Donc, c'était une bonne mesure parce qu'elle évite les hausses. On a eu plus 37% en euros constants, presque 60% en moins de 10 ans d'augmentation des loyers. Et les Français payent de plus en plus cher pour se loger. Ils n'y arrivent plus, ça plombe leur pouvoir d'achat.
Et vous soutenez, Marie-Noëlle Lindemann, toutes les communes qui veulent déroger justement à l'opposition de Manuel Valls à cet encadrement des loyers, notamment Lille, Grenoble, Annemasse en Haute-Savoie, plusieurs communes. Jean-François Buette, alors on va y revenir dans tout ça dans le détail. Mais vous avez compris que cette régulation des loyers était importante aussi pour le marché. Une partie de l'aile gauche soutient cela du côté des propriétaires mais des locataires aussi. Vous vous dites tout le contraire. En quelques mois, vous avez une paralysie de l'immobilier et c'est lié pour vous à cet encadrement des loyers.
En partie, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Si vous voulez, l'encadrement des loyers y est pour quelque chose. Nous, dès le départ, on a considéré que l'encadrement des loyers n'était pas la bonne solution parce que pour nous, c'est casser un thermomètre, mais c'est pas soigner le malade. J'entends par là que c'est pas parce qu'on va encadrer les loyers qu'on va produire des logements en nombre pour nos concitoyens qui en ont besoin. On a besoin de locataires qui, effectivement, peuvent payer leur loyer et pour lesquels ça représente une charge qui reste raisonnable parce que sinon, on va devant des difficultés qui auront des répercussions aussi sur les propriétaires bailleurs, mais de toute façon cette mesure-là, elle existait déjà parce qu'on avait déjà dans la loi du 6 juillet 89 un article 18 qui permettait ville par ville, zone par zone, de prendre des décrets régulièrement pour arrêter les augmentations de loyers. Donc nous, on pense que cet encadrement des loyers a été une mesure qui a été un signal reçu comme négatif de la part de la population, surtout des bailleurs bien entendu, et surtout ça ne répond pas à la demande. La demande c'est le besoin de logement, c'est-à-dire mettre des logements neufs et anciens en nombre suffisant pour répondre aux besoins de nos concitoyens.
Eh bien voilà, une minute pour exposer vos arguments. Fallait-il revenir sur l'encadrement des loyers comme l'a souhaité Manuel Valls ou au contraire l'expérimenter dans un certain nombre de métropoles? Vous pensez que oui, Marie-Noëlle Lindemann, pardonnez-moi. C'est un cadeau que vient de faire Manuel Valls aux propriétaires. Vous ne fonctionnez pas en termes d'opposition et que vous voyez simplement qu'il faut produire des logements et libérer le marché pour favoriser l'investissement.
Ce qui est clair, c'est qu'il faut produire des logements. Ce qui est clair, c'est que cette décision ne va en rien aider à la production de logements. Et que par ailleurs, c'est, je m'excuse, mais Emmanuel Valls a une position idéologique. Ça fait très longtemps qu'il y a des discussions là-dessus. En Allemagne, ils font le même mécanisme qu'en France, quel avantage est un mécanisme très territorialisé pour tenir compte de la différence des territoires et des marchés, et qui doit mettre un coup d'arrêt à cette hausse effrénée dans certains secteurs des loyers qui, je le rappelle, ont pris 10 points de pouvoir d'achat en 10 ans aux Français. Ça veut dire qu'on met de l'argent pour se loger et donc pas pour consommer, pas pour utiliser des services, pas pour soutenir l'activité. Un rapport même de l'OCDE montre que dans la compétitivité française, la hausse énorme de l'immobilier, le poids important des dépenses de logement sont un handicap à notre compétitivité.
Oui, et là...
Alors maintenant, la thèse qu'il faut construire plus pour que les loyers baissent, ça marche pas. Parce que quand on a vu, on a construit plutôt plus. Mais pourquoi on a construit plus? Parce qu'il y a eu des milliards d'injectés en aide fiscale pour construire des logements sous le précédent gouvernement, qui lui-même est revenu là-dessus tellement ça coûte cher et ça a plombé les comptes de l'État. Eh ben, la réalité de pourquoi il y a une chute de la construction, c'est parce qu'on a enlevé ce dopage fiscal qui coûtait énormément.
Jean-François Bette.
Mais pendant ce temps-là, les loyers ont considérablement augmenter dans la période.
Ça ne va pas
effectivement, je ne peux pas laisser dire ça. C'est pas, de toute façon, il faut construire. Alors, effectivement, il ne faut pas construire avec uniquement un dopage fiscal qui coûte cher aux contribuables. Ça, je suis parfaitement d'accord. Il faut être citoyen responsable. Néanmoins, produire des logements en nombre, bon, j'ai dit produire, ce n'est pas forcément que construire. D'abord, il faut construire là où il y en a besoin.
Absolument.
On construit aussi dans beaucoup d'endroits où on n'en a pas forcément besoin. Et on aboutit à des excès avec le cellier, par exemple, dans des
bien
villes
sûr.
Comme Draguignan, etc. On va pas revenir là-dessus.
C'est vide maintenant.
Bon. Mais par contre, moi, je dis produire, c'est aussi se servir du tissu ancien.
Oui.
Et dans le tissu ancien aujourd'hui, on a des gens qui font de la rétention, ne louent pas, ne vendent pas. Et ça ne participe pas non plus à la bonne santé du marché du logement parce que finalement, on a moins de logements et donc c'est l'offre et la demande. Et donc, comme dans les zones tendues ici en région parisienne, on a une demande qui est très très forte, et bien forcément, ça crée un déséquilibre et stratégiquement, les loyers augmentent. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi produire, c'est-à-dire inciter les logements. Je crois qu'il y a deux politiques, la politique du bâton et la politique de la carotte. Moi, je préfère la politique de la carotte que la politique du bâton.
Ça veut dire je suis aussi pour la politique de la carotte, mais pas sur le même sujet.
Mais ça veut dire que...
j'ai été très favorable à la garantie, la GUL.
Des loyers.
C'est-à-dire que tout propriétaire doit être sûr qu'il va toucher les loyers. Parce que c'est ça la vraie garantie. C'est d'être sûr que les loyers soient raisonnables, qu'ils soient adaptés aux revenus des Français... Mais pour le coup, qu'ils ne soient pas obligés d'aller faire 25 000 démarches quand vous avez des impayés.
Là-dessus, vous êtes d'accord,
je veux bien régulièrement les loyers.
Madame Liman, moi je veux bien, mais à ce moment-là, je veux qu'on chiffre la mesure. Parce que
oui.
Le problème, c'est qu'on n'a pas chiffré la mesure.
Bien
et qu'on,
sûr.
Et qu'on a dit des mensonges aux Français. Une garantie universelle des loyers dimensionnée de façon importante, ça peut coûter aussi très cher à la société.
Beaucoup moins cher que les 3 milliards qu'on met chaque année en aide fiscale. Car je vous rappelle que le cellier, il a coûté très cher, mais on va devoir le payer jusqu'en 2030.
C'est 2030. Pour ça, c'est
est-ce
pour
qu'il
ça que
faut
dans les carottes,
laisser, madame, monsieur, le marché réguler de lui-même les loyers comme le souhaite aujourd'hui Manuel Valls, à quelques exceptions près, hein, notamment en région parisienne, et puis des dérogations pour Lille, c'est ce que souhaite Martine Aubry, peut-être pour Grenoble, pour la pleine commune, pour Annemasse. Eh bien, on va voir ce que vous en pensez au 39-21. Nous avons Eric, société immobilière, qui nous appelle, Jean-Michel, qui est architecte, des questions en studio, pour tenter de voir ce sur quoi on peut amender cette réflexion, parce que expérimentation, oui, qui peut se généraliser peut-être. L'encadrement des loyers pour ou contre, à tout de suite, c'est le débat d'Europe Midi.
Pour poser vos questions sur l'actualité,
39-21, 34 centimes la minute,
et sur Europe 1.fr.
Europe Midi. Wendy Bouchard.
Le débat d'Europe Midi avec en studio Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, figure de l'aile gauche et qui vient défendre ici la pertinence de l'encadrement des loyers qui a été voté, elle le rappelait, par les deux assemblées, qui est en expérimentation en Ile-de-France, Paris-Ile-de-France, et peut-être une dérogation à venir pour Martine Aubry à Lille, pour les villes de Grenoble aussi, notamment. Je cite Jean-Claude Gaudin qui lui estime que la loi sur l'encadrement des loyers a démontré en quelques mois son inefficacité en freinant la construction de logements neufs en France. Et c'est ce que dit notre autre interlocuteur, Jean-François Buet, président de la FNAIM. Ça n'a pas produit de logements, ça les a même freinés. Un signal négatif pour le marché. Alors vous êtes là, madame, monsieur, pour argumenter de chacun de votre côté. L'expérimentation, puisque vous appeliez à l'esprit de la loi, l'expérimentation, elle va vous donner aussi à tirer un constat, Marie-Noëlle Lindemann. À Paris, en Ile-de-France, les grandes métropoles, Lille, peut-être Grenoble, déjà vous verrez si le marché est libéré. Ça vous donne un gage, le gouvernement vous donne un gage.
Jamais, je rappelle que la loi n'a jamais dit qu'elle allait faire cette régulation sur l'ensemble du territoire. C'était 25 grandes villes et leur environnement.
On en choisit trois.
Donc, je m'excuse, mais le gouvernement n'a pas le droit de dire que la loi s'applique pas. Donc, c'est pas une expérimentation, c'est une montée progressive de la loi. Parce que la loi, il n'y a pas aucun gouvernement en France n'a le droit de dire cette loi ne s'applique pas. Ou alors, faut qu'il fasse voter le Parlement. Donc, qu'est-ce qui c'est pas une dérogation? C'est qu'ils acceptent de le mettre en œuvre tout de suite. Bon, donc on peut dire, en cela, ça expérimente parce que ça éclaire les décrets d'application qu'il faudra faire pour l'avenir. Moi, j'appelle le maximum de maires à le faire quand ils le ressentent sur leur territoire. Et je dis qu'il faut d'autant plus le faire maintenant, c'est que quand on aura mis... C'est plus utile, cette loi, pour éviter que ça reflambe, plutôt que de réellement faire baisser les loyers. Parce que ça ne va pas faire massivement baisser les loyers. Si on avait voulu être dirigiste, on aurait dit moratoire, plus d'augmentation. C'est pas ça qui a été choisi. Ça a été de vérifier que les hausses soient raisonnables et que le marché soit raisonnable. Or, pour l'heure, dans la plupart des communes, mais ça commence à se réinverser, il y avait de nouveau une petite baisse. Il y a, par exemple, à Lille, de nouveau une petite hausse. À Rennes, de nouveau une petite hausse. Donc, il est le temps de faire cela, bien observer, réguler au moment où il n'y a pas de grande poussée de la hausse, et ne pas
bien,
attendre.
Psychologiquement,
parce que si on attend
psychologiquement,
la hausse,
Buet, c'est terrible pour vous.
Mais c'est-à-dire que si vous voulez, nous, on travaille sur les observatoires et on a les données. Effectivement, il n'y a pas de guerre des chiffres parce que les loyers ont augmenté. On va refaire. Mais ce qu'il faut absolument, c'est avoir une vraie vision. Or, moi, je dis qu'on avait un outil. On avait un outil dans la loi. L'article 18 de la loi, avant la loi Allure, permettait la mise en place de décrets régulièrement. Et d'ailleurs, je rappellerai quand même à Madame Aubry et puis à Monsieur le maire de Grenoble que Lille et Grenoble sont dans le décret qui était signé le 30 juillet dernier pour l'encadrement des loyers pendant un an. Donc,
non, c'était que pour l'encadrement des relogements, quand vous changez de propriétaire.
Des renouvellements, voilà. Et des relocations.
C'est ça. Mais il était, c'est bien parce que ces décrets n'avaient pas l'efficacité qu'on pouvait souhaiter.
Ils ont été pris à Paris,
mais ça n'a pas ça qui a empêché les hausses de relocation pendant 10 ans. Donc la réalité, c'est que ces décrets ne sont pas efficaces parce qu'ils sont à posteriori. Et que justement, l'intérêt d'avoir un travail qui fait que dans la longue durée, on connaît le marché, on évite que ça ait plus 20, moins 20, c'est plus visible que de savoir si on va avoir un décret ou pas.
Propriétaire, locataire, il y a ce chiffre, il nous fallait 500 000 constructions de logements, on en a juste 300 000, comment libérer justement cette construction, cet investissement aussi locatif, eh bien on en parle avec vous, c'est la question centrale, oui, absolument. Monsieur, vous avez le micro pour intervenir dans ce débat. Les auditeurs ont la parole, on vous écoute.
Oui, bonjour. Alors, je suis assez concerné par la question puisque depuis quelques semaines, je suis en train de chercher un nouveau logement. Je suis étudiant et les étudiants et les jeunes en général font partie des personnes qui sont le plus sévèrement touchées par la crise du logement, notamment parce que le prix des petites surfaces est beaucoup plus élevé que celui des grandes surfaces. Et moi, j'ai de la chance que mes parents puissent me donner de l'argent. Ils me donnent 800 euros par mois sur Paris pour trouver un logement, le plus petit logement, c'est-à-dire 9 mètres carrés. En dessous, on n'a pas le droit de louer. On est déjà à 550, 600 euros. Si on veut une surface un petit peu plus humaine, il faut aller. Après, si on va dans la petite couronne, c'est globalement les mêmes prix. Donc voilà, c'est aussi une vraie mesure sociale, l'une des rares mesures sociales qui a pu être faite depuis le début du quinquennat Hollande, et je pense que c'est important qu'on la garde. Et ensuite, j'ai entendu quand même ces dernières semaines beaucoup d'invraisemblances. On nous dit la crise du l'encadrement des loyers, la loi Allure de Cécile Duflot serait responsable de la crise de la construction.
Mais la crise de la construction, elle est là depuis 2008. La crise de la construction, elle est là partout en Europe parce qu'il n'y a pas de, parce qu'il n'y a pas de croissance économique, parce qu'il n'y a pas de demande de logement.
En tout cas, ce que dit Jean-François, c'est qu'elle ne répondait
justement,
pas.
Vous prouvez qu'il y a des demandes de logement.
C'est justement ça le vrai problème.
Non, mais c'est justement ça le vrai problème. C'est qu'il y a vraiment des demandes de logement. Le problème, c'est que les demandes de logement, elles sont partout, elles sont au même endroit. Et qu'il y a une, il y a une dichotomie énorme, une différence énorme entre ce que vous vivez dans le fond de la France et ce qu'on vit ici à Paris. Donc, si vous voulez faire une loi générale pour sanctionner tout le monde, c'est pas.
Eh mais bien oui, pas mais le cas, donc, parce qu'il y a ciblé que les grandes agglomérations.
Ce que vous vivez ici à Paris, c'est pas parce que demain le loyer va être divisé qu'on va avoir plus de logements. Or, si on avait plus de logements, forcément déjà, ça participerait à la baisse des prix.
Marine Hollmann n'est pas d'accord.
D'abord, il faut pas mélanger tous les problèmes. La raison pour laquelle on a voulu réguler les loyers, c'est le fait que le pouvoir d'achat des Français est complètement plombé et par ailleurs, ils peuvent plus faire face. Il y a des logements vides dans certaines villes de
province.
Donc
on fait plus confiance au marché, on encadre.
Et deuxièmement, la vraie question, c'est on n'a par ailleurs pas assez de logements et surtout pas de logements à des prix abordables.
Oui.
Voilà. Donc voilà la question, c'est comment on le fait. Oui. Et par rapport à cela, alors autant je suis critique sur le gouvernement sur la question de l'abandon de l'encadrement des loyers, enfin la formule régulation de loyers, autant il est vrai qu'il fallait un coup de booster pour faire repartir. C'est pas la loi Allure qui a fait chuter la production. Vous le savez comme moi, elle a commencé à chuter en 2009 et en 2010, surtout quand on a annoncé la fin du cellier. C'est ce que je disais sur les aides fiscales.
Et Jean,
attendez, deuxièmement,
un auditeur va vous interroger.
Je vais quand même dire une autre chose. Allez. Il y a eu les municipales. On sait toutes les années où il y a les municipales, un an avant l'élection, les maires ne donnent pas de permis de construire parce que ce n'est pas très favorable pour se faire élire.
C'est vrai.
Et enfin, il est vrai que le gouvernement a tardé sur un certain nombre d'impulsions financières. Je pense par exemple à la TVA 5 dans l'allocation accession ou des choses comme ça. Donc là, le taureau a été pris par les cornes avec des mesures, à mon avis, intéressantes pour débloquer du foncier
et pourtant,
sur l'accession.
Nos auditeurs nous disent comme Eric que cette loi Allure compliquait beaucoup les choses. Vous qui êtes agent dans une société immobilière, Eric, bonjour.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Merci à vous.
Je vous écoute avec grande attention. Déjà, je vais venir de bloquer les loyers et les prix. C'est une aberration économique. On est sur. Avant, il y avait un énorme pan économique qui était l'automobile. Maintenant, qui diminue pour plein de raisons de pollution là. On veut développer l'immobilier. L'immobilier est un énorme pan économique qu'il faut développer et le libérer surtout. À une époque, on parlait surtout, on disait toujours, les trois règles de l'immobilier étaient l'emplacement. Maintenant, c'est fiscalité. Et je pense que nos gouvernements, arrêtons de prendre l'immobilier pour effectivement taxer dans tous les sens. On a taxé les résidences secondaires, c'était avant ce gouvernement, mais c'était une mauvaise idée de taxer les résidences secondaires. On obligeait les gens, contrairement à fluidifier le marché, d'attendre 30 ans pour ne pas payer de plus-value. C'est une aberration économique. Et ça a bloqué aussi le marché de la résidence principale parce qu'on avait des clients qui pensaient vendre leur résidence secondaire qui se sentaient bloqués, alors, qui a été rechangée cette loi, qui a été bloquée pour acheter des résidences principales. Donc je pense qu'il faut libérer au contraire ce marché et diminuer la fiscalité sur l'immobilier.
Marine Hollmann va vous répondre, Eric, avant une petite pause.
Enfin, c'est pas la peine. Partout c'était libéré, il y a eu les bulles immobilières, on a vu ce que ça a donné. Heureusement, en France, il y avait quand même un certain nombre de cadres, parfois trop contraignants, c'est vrai, parfois bureaucratiques. Il faut toujours simplifier, et l'action simplificatrice du gouvernement est une bonne chose. Et même dans certaines lois qu'on fait, c'est hyper compliqué, mais c'est souvent Bercy qui complexifie. Hein. Donc, c'est vrai, mais le marché libre en matière immobilière, ça fait des catastrophes. La vraie question, c'est la bonne régulation. Et moi, je plaide, puisqu'on nous parle tout le temps de social-démocratie. En Allemagne, la régulation, elle se fait avec les partenaires que sont les locataires et les propriétaires. Et nos observatoires doivent associer les locataires et les propriétaires. Et pour qu'on trouve des choses raisonnables. Mais l'économie française est plombée par une dérive des prix. Et par ailleurs, sur la construction, moi, je demande un plan d'urgence. J'ai d'autres idées, par exemple, obliger dans certains terrains le foncier disponible à être construit.
On s'arrête là, Marie-Noëlle Lehmann, vous qui êtes militante de l'encadrement des loyers, de la régulation des loyers pour soulager les locataires et aussi un certain nombre de propriétaires. Jean-François Bette doit avoir quelques minutes encore pour argumenter. On vous donne la parole et vous procéderez ensuite au vote pour nous dire vers quel côté vous penchez dans ce studio. Ne bougez pas.
Europe 1. Europe 1. Europe Midi.
Wendy Bouchard.
En direct en public, quelques minutes encore dans le débat d'Europe Midi. Fallait-il revenir, comme l'a fait Manuel Valls, sur l'encadrement des loyers? Tout cela est-il de nature à soulager désormais le marché? Nous sommes avec Marie-Noëlle Lindemann qui considère que justement il fallait conserver cette régulation des marchés, que c'était une bonne chose, un bon signal du gouvernement et de la gauche voté par les deux assemblées. Et Jean-François Buet, président de l'AFNAIM, soutient au contraire que c'est une respiration. Alors, est-ce que vous diriez, Jean-François Buet de l'AFNAIM, que les promoteurs, les constructeurs aujourd'hui sont vraiment engagés par quel dispositif à construire les logements que l'on attend tant?
Je crois qu'on a besoin de signaux positifs. Si vous voulez, le problème, c'est que quand on n'a pas de logement, ça pénalise qui ? Ça pénalise les locataires. Donc, il y a une suite logique à tout cela. Aujourd'hui, on a assisté pendant un certain temps à des signaux négatifs, et maintenant, on a enfin quelques signaux positifs qui rassurent. Le problème, c'est qu'on fait de la politique marketing et qu'on n'a pas depuis 30 ans dans ce pays une vraie politique ciblée du logement qui permette de donner satisfaction à chacun de nos concitoyens. Et je dirais que l'État doit montrer l'exemple. On parlait de l'augmentation des loyers tout à l'heure, et bien moi, je vous donnerai des chiffres. Augmentation des taxes foncières sur 10 ans, 55%. Augmentation des taxes foncières, des taxes d'habitation sur 10 ans, 58%.
C'est ça, le
augmentation
problème.
Du coût de l'énergie, 55%. Ça participe au problème. Ça participe au problème parce que c'est le coût du logement également.
C'est pas de la faute de l'État, vous dites.
Non,
donc les chiffres,
chose,
vous ne les recevez pas.
C'est que en 30 ans, mais en 10 ans, on peut le diviser par 3, la rente immobilière, le prix de l'immobilier, en 30 ans, a augmenté de 537%. Il n'y a pas un secteur d'activité humain qui a...
Toutes les études le montrent.
Il s'est constitué une rente foncière dans ce pays inégalement répartie, qui nous plombe. Et à partir de ce moment-là, nous ne demandons pas d'aller... nous demandons de réguler
pour que ça arrête. Que dit FNAIM sur cette rente immobilière?
Il faut s'adresser aux classes intermédiaires. On a besoin de logements intermédiaires. Moi, je propose qu'on fasse du logement intermédiaire dans l'ancien et pas que dans le neuf. Pourquoi dans l'ancien? Parce que l'ancien se situe dans les centres-villes, parce que c'est grâce à cela qu'on va faire une vraie mixité dans les centres-villes. Sauf qu'on attend depuis des années un vrai statut du bailleur dans l'ancien, parce qu'aujourd'hui, le conventionnement, s'il est fait sans travaux, ça ne marche pas, et vous le savez. Donc, il faut qu'on fait une proposition d'expérimentation.
Je
suis prêt à travailler. Vous savez qu'on a discuté à plusieurs reprises.
Bien sûr,
madame.
Il y a des choses intéressantes.
Et donc, c'est le vrai sujet, parce que ça touche les classes les plus défavorisées.
Je remercie Jean-Michel qui nous appelait de l'Aisne, qualité d'architecte. Nous le dit, il y avait de bonnes choses dans la loi du flot, mais elle était si mal conçue que cela a eu pour résultat, je suis d'accord avec votre invité, de bloquer complètement le marché. Les propriétaires ne pouvaient plus investir car l'immobilier n'avait aucune rentabilité. Vous allez évidemment dans le sens de Jean-Michel bémols.
On constate une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui achètent pour faire un investissement, ils sont moitié moins nombreux qu'ils l'étaient il y a 3 ans.
Ça, c'est une réalité.
C'est pas faux. Pour une raison simple, c'est que la moitié de ceux qui investissaient il y a 3 ans ne le faisaient pas pour avoir un bon placement immobilier, ils le faisaient pour une opportunité fiscale. Vous enlevez l'opportunité fiscale qui coûtait, je le rappelle, jusqu'à 2 millions d'euros par an dans le budget de l'État. Cette année, dans notre budget, nous payons encore 2 milliards d'euros pour l'ancien cellier d'Eurobien et aux 2 milliards d'euros. Donc vous voyez bien, quand je prends l'exemple, l'augmentation du RSA de 2%, c'est 350 millions. Voilà. Donc
Et il n'y a pas que ça qui a freiné aussi. C'est toutes les annonces. On a eu plein d'annonces négatives. Le locataire va avoir tous les droits. Le locataire pourra remettre en cause plein de choses.
Oui, mais vous avez déjà dit ça à la loi Clio et puis personne ne l'a remis en cause.
Allez, on va s'arrêter là, madame, monsieur.
Le locataire qui ne paye pas son loyer, il n'a même plus de clause pénale. Alors que le propriétaire qui ne rend pas le dépôt de garantie, c'est
Allez-y.
Bonjour, oui. Je me demande si avec toutes ces lois, avec toutes ces mesures, on n'est pas finalement en train de stigmatiser les investisseurs de façon à ce qu'au bout d'un moment, ils ne vont plus avoir envie d'investir. On ne les pousse pas à investir bien, à investir au bon endroit pour pouvoir après mettre à disposition des logements. Et du coup, on a l'effet inverse en voulant accuser en permanence les investisseurs que celui qu'on voudrait avoir.
Voilà, témoignage. Alors, il ressemble à beaucoup de ceux qu'on a reçus.
On dit simplement que l'investisseur doit avoir un rendement raisonnable au regard du français qui doit payer son loyer.
Merci.
Car comme on vous
beaucoup.
Le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont investi, qui sont aujourd'hui le bec dans l'eau, parce qu'ils n'ont pas de locataire. Vous prendrez des gens qui ont acheté du cellier et qui se retrouvent aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous sur le dé qu'il faut un statut du vrai bailleur privé.
Fallait-il maintenir l'encadrement des loyers? C'est la position de Marie-Noëlle Lindemann et d'une partie de la gauche, et évidemment de Cécile
Duflot, voté rouge pour soutenir cette position. Fallait-il au contraire revenir sur cette mesure qui bloquait, qui rigidifiait le marché de l'immobilier? C'est ce que pense Jean-François Vey de la FNAIM. Vous votez bleu pour soutenir la position de cet autre débatteur. Rouge et bleu en studio, j'ai l'impression que c'est assez partagé. Elodie et Audrey, qu'est-ce que ça donne? 16 pour Jean-François Vey. Et 17 pour Marie-Noëlle Lindemann. Vous voyez, vous avez pacifié un petit peu le studio. Bon, on va dire que l'expérimentation dans quelques grandes villes va vous mettre d'accord et on en tirera le constat, le bilan ensuite. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lindemann, de votre présence. Merci Jean-François Bé de la FNAIM. Je vous dis à demain. C'est très sympa encore d'avoir participé très nombreux aujourd'hui. Et je salue Franck Ferrand. Bonjour Franck.